Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. En train d'enregistrer avec Johan Koval. Salut Johan, comment vas-tu?
Salut, bah écoute, ça va très bien. Le soleil est en train de revenir sur le Kenya. Il a plu ce matin, mais là ça revient du coup. L'humeur monte avec la belle température. Donc
c'est cool. Bon, bah écoute, ravi de faire cette interview à distance pendant que tu es au Kenya. Déjà, je sais que c'est un pays qui te touche particulièrement et avec lequel tu as une histoire particulière et sur lequel forcément j'aurai quelques questions. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi de te voir aujourd'hui, notamment, je te l'avoue tout de suite, hein, je te déclare ma flamme. J'adore ta personnalité parce que elle peut être un peu paradoxale. C'est qu'à la fois, quand on demande à tout le monde s'il y avait deux adjectifs à dire sur Johan, c'est il y a un côté la discipline de faire. T'es un fan de performance, t'adores mettre tous les curseurs de la performance de ton côté, aller t'informer énormément. Et de l'autre côté, bah, quelqu'un de très jovial, très humain, qui adore faire des rencontres et pas du tout fermé ou introverti, ce qu'on pourrait avoir comme image des gens qui ont une discipline de fer, tu vois. Donc, écoute, moi, je suis enchanté de te voir aujourd'hui. On va parler un petit peu de tous ces sujets. J'ai dit de Kenya, un peu de préparation mentale, de discipline, de comprendre un petit peu comment est-ce que tu t'es construit. Mais je t'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast, question que j'ai posée à de très nombreux athlètes qui sont passés avant toi, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Bah écoute, c'est tout simple, c'est au collège. C'est peut-être pas le premier souvenir de sport en direct, mais c'est ce qui me vient direct à l'esprit. Au collège, le cross des collèges. Donc, et j'avais un ami que j'avais recruté pour venir dans un club, dans mon club d'athlétisme. Sur le cross du collège, il m'avait coupé le virage, il m'avait mis le bras sur la barrière pour pas que je fasse ça à l'intérieur. Et il m'avait carrément freiné et après repoussé vers l'arrière avec son bras. J'avais terminé deuxième et ça m'avait marqué, ça m'avait choqué parce que ben voilà, je suis quelqu'un de très humain, de très investi dans le sport, mais de passionné. Et pour moi, une victoire, ça se mérite de la plus belle des manières. Et là, ça avait été une victoire un petit peu volée pour moi de sa part. Et du coup, ben, ça m'a marqué. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait la personnalité que je suis aujourd'hui. Donc c'est un peu ça le premier souvenir du cross du collège. Autour de là, à côté de Périgueux.
Ok. Tu l'as raconté de nombreuses fois, tes parents étaient sportifs de haut niveau, ta mère duathlète et ton père faisait du 3000 mètres steeple. Est-ce que déjà au collège, le cross, c'était un événement incontournable pour la famille et qu'il fallait que tu réussisses?
En fait, mes parents ne m'ont jamais poussé à faire de l'athlétisme. J'y suis venu naturellement parce qu'on a été sur des sites comme Fourmeux pendant nos vacances scolaires. Mon père faisait des stages là-bas. Du coup, le parcours de santé de Polar Affiche, je le dis souvent parce que c'est une anecdote qui parle et du coup, c'est marrant parce que j'ai mon fils qui, je pense, est capable de le faire aujourd'hui, mais à 4 ans et demi, j'arrivais à faire un tour de santé sportive. C'est 1700 mètres. Ma mère me dit souvent ça, qu'elle me traînait parce que je voulais en faire un deuxième et puis mon père, pour ses filles, me récup. Et voilà, et à cet âge-là, c'était beaucoup de proto. Bercé dans le sport, mais pas orienté directement vers l'athlée. Ils m'ont laissé libre choix. Seulement, la contre-performance collective, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a impacté, qui me déplaisait. Je voulais m'en vouloir qu'à moi-même. Comme tu l'as dit, je suis quelqu'un d'assez acharné dans le travail. Et là, de perdre à cause, entre guillemets, d'une équipe, ça ne venait pas que de moi, forcément. Voilà, ça prenait un peu trop de part importante pour moi dans le résultat. Ça me touchait beaucoup trop. Et du coup, je me suis orienté vers l'athlète parce que forcément, j'avais un peu de prédisposition. Les résultats, ça passait plutôt pas mal au niveau départemental. Hein, c'est pas de... Mais voilà, les petites médailles qui amènent de la stimulation, qui amènent de la motivation. Du coup, je me suis orienté naturellement vers l'athlète. Mais voilà, ils ne m'ont pas poussé à faire ce sport directement. Ils m'ont vraiment laissé libre au toit. Et après, forcément, quand on a les médailles, les petits résultats, on a la target d'avoir les chronos de son père sur 3000 mètres steeple, le chrono de ma mère qui avait fait 39 minutes aussi au 10 km. En fait, j'étais cadet et je pouvais les 10 km en étant placé en Dordogne. L'organisateur le savait, c'était local. Et voilà, ça a été plein de petites motivations tout au long de ma carrière qui ont fait que ça m'a stimulé. Aller chercher les 39 minutes de ma mère, aller chercher les 8:46 de mon père sur steeple. Tout ça, toutes ces étapes accumulées ont fait que voilà, je me suis construit un mental et une psychologie de performance et de baser en gros ma vie autour de l'athlée. Voilà.
Ok. Bien que tu dises que tes parents t'ont jamais poussé spécialement vers l'athlée ou spécialement vers la compétition, tu mentionnais, tu vois, à travers ton premier souvenir de sport, que gagner avec la manière, le fair play, le respect de l'adversaire aussi, c'était des valeurs qui étaient importantes pour toi. Est-ce qu'avec le recul, c'est des valeurs que eux ont essayé de te transmettre, parce que justement, c'est des valeurs aussi qui dépassent un peu le monde du sport et qui sont encore plus valorisantes dans la vraie vie.
Ah ben, comme on dit, les chiens ne sont pas des chats, même si on se crée sa propre personnalité et on peut être la personne que l'on souhaite, on a quand même des grandes bases d'éducation et surtout à cet âge-là. Donc non, ils m'ont naturellement amené vers le respect d'autrui, vers la performance, mais la performance propre. Aussi, c'est important d'avoir cette relation dès très jeune face au dopage qui était... Voilà, celle que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, le fait d'être quasiment anti-médicaments et de là à me créer une inflammation pulmonaire parce que je n'aime pas ça, ça a été dans mon éducation et dans mon schéma d'éducation, mais sans être matrixé par ça. C'est-à-dire, ils m'ont jamais dit que tu sois comme ci, comme ça, etc. Mais dans l'éducation qu'on te donne au quotidien, tu as des grandes lignes. Et du coup, mes parents, je me rappelle souvent de mon père qui me faisait des petits conseils, mais c'était mignon. Enfin, c'était les seuls trucs, en gros, c'était de montrer à l'adversaire que j'étais malade et de pisser un peu avant la ligne. C'était des petits trucs tout bêtes. Mais pousse un peu, fais genre de bailler, semblant de bailler dans la ligne de départ, tu fais un truc de moody bluff, entre guillemets. Ça, c'est des petits souvenirs que j'ai encore aujourd'hui et qui m'ont marqué. Parce qu'au final, quand je vois aujourd'hui un Jimmy Gressier ou un Mayedine Nekissi, qui eux ont cette expression d'avant-course, je vais tout casser, je vais faire ci, je vais faire ça, et qui s'expriment dans leurs ambitions. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Et du coup, comme je disais à ma femme récemment, c'est des personnalités qui auraient pu me manger en étant en concurrence parce que ils auraient pu prendre un ascendant psychologique sur moi. Aujourd'hui, j'ai un peu de recul et ça va, j'arrive à le gérer. Mais voilà, moi, j'ai pas été élevé comme ça et du coup, c'était plus dans la discrétion. Je suis un peu malade, je pousse un peu, je suis pas très bien là, j'ai les jambes lourdes. Avant la compète, on n'est jamais bien. Ça, c'est, j'aime beaucoup ça parce que ça, c'est vraiment mon père qui m'a amené ça à avoir, t'es jamais bien, mais même si t'es bien, tu le montres pas et, et tu te gardes pour toi et voilà, tu t'exprimes sur la piste ou sur le cross avec, avec tes armes.
Donc, si je comprends bien, à la fois de l'humilité, mais aussi un petit peu quand même de fourberie pour envoyer des mauvaises informations aux adversaires. Donc, tu étais plutôt dans la contre-attaque plutôt que dans, dans l'attaque, si je comprends bien. C'est un peu plus des stratégies de contreur, de contre-attaquant, plutôt que d'un lièvre qui va essayer de dominer toute la course et de faire exploser tout le monde.
C'est marrant de dire ça parce que j'ai eu cette éducation-là. Mais là, ce que tu me dis, ça me fait penser à une course. Je suis en Bordeaux, en salle. J'ai deux saisons de KD2 avec, KD2 avec mon entraîneur actuel, qui me fait évoluer de 9,46 au départementaux à 8,58 au France. Donc, une belle progression en un été, après deux mois de repos parce qu'il pouvait que je m'entraînais trop. Enfin, tout ça pour dire, j'explique la continuité. Puis après, je me retrouve quelques mois plus tard sur la saison indoor. Donc, c'est ma saison été. Je suis KD2. Je suis 13e des France, 8,58. J'ai explosé mon record de quasiment une minute. Donc, c'est top. Il y a une belle progression. On s'entraîne tout l'hiver. Et là, j'arrive à un championnat en salle. Et là, j'ai un adversaire qui s'appelle Lionel Tricliat. Je me rappellerai toujours aussi de cela. C'était un 3000. Je suis resté 2800 mètres derrière lui, mais vraiment resté 2800 mètres derrière lui. Il était plus grand, hein, c'était un senior. Et je l'allume dernier 200, mais le truc qu'on fait aujourd'hui, qui m'en supporte. Et là, je passe après la course. Enfin, on franchit la ligne. Et là, il vient de saluer. Il dit, c'est bien, jeune et tout. C'est bien ce que tu as fait. Tu as fait un bon chrono. Ça fait 8,36 en salle. Je re-explose mon record. Là, je lui dis, mais non, je suis désolé, parce qu'il est derrière nous, je t'ai pas aidé, mais je pensais que je pouvais pas pouvoir plus vite. Et là, sur le finish, j'ai réussi à aller devant. Et voilà, donc, ça revient à ce qu'on disait à l'instant. C'est un peu de, finalement, je suis resté dans le recul, mais il m'a apporté cette phrase-là en me disant, mais non, t'es un jeune, c'est comme ça qu'il faut faire et tout aujourd'hui. Et je pense que ça aussi, ça a évolué par la suite pour moi, parce que c'est pas quelqu'un qui, dans les courses, de manière générale, reste derrière. Je suis très rarement tout le long des pas arrivé derrière à faire une course tactique ou autre. Je suis souvent généreux dans l'effort, je suis un peu trop. Des fois, je mets des soupapes un peu trop violentes, un peu trop tôt, ce qui me vaut des médailles ou des places en finale. C'est un peu les deux qui me façonnent. Donc, j'ai ce comportement d'être jamais bien avant la course. Et après, dans la course, tu ne verras jamais rester derrière ou te coller au train de quelqu'un dès pas arrivé et l'allumer sur la fin. Ça a été peut-être la seule course de ma carrière qui a été comme ça. Et finalement, la personne l'a bien pris. Donc
ok, bon, mon intuition n'était pas forcément la bonne. Mais je me pose, tu vois, la question, là, on parle déjà beaucoup de valeurs, de mental et de psychologie. Comment est-ce qu'il était le petit Johan à l'école?
Il était très discipliné. Au contraire, j'étais quelqu'un de...
Je vois beaucoup d'ironie.
Ouais. Non, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas l'école. Je n'étais pas du tout studieux. C'est savoir que mes parents sont séparés. Donc, je vivais avec ma mère qui a eu, pendant un an, elle a fait une reconversion professionnelle. Donc, pendant la 6e ou la 5e, elle travaillait à distance. Elle était toute la semaine en déplacement. Elle était avec son ami. Et du coup, j'étais un peu libre à moi-même. J'ai raté l'école, n'importe quoi. Je falsifiais mes bulletins de notes, je les envoyais, les vrais bulletins, quand j'étais en vacances chez mon père. Ah ouais, j'étais vraiment un élève catastrophique. Bon en sport, bon en flûte et bon en dessin, c'est ce qui me faisait valoriser ma moyenne. Mais le reste, j'avais des capacités, mais que je ne voulais pas exploiter, feignant comme pas possible. Ce qui est marrant, c'est que j'ai revu des professeurs par la suite qui m'ont dit que finalement, j'étais un peu l'élève, élément perturbateur. Mais c'était j'étais attachant, je n'étais pas violent ou mal élevé à répondre aux professeurs ou autre. Et voilà, tout ça pour dire que j'allais jusqu'au collège, j'ai fait tout mon collège jusqu'à la troisième. À la troisième, j'ai fait un apprenti, un stage d'entreprise qui a été prolongé parce que j'avais menti à mon collège en me disant que mon patron voulait que je reste plus longtemps sur ce stage, un mois de plus. Et mon collège, ça les arrangeait de me faire une convention plus grande parce que du coup, c'était un mois de plus chez ce patron qui après me promettait un apprentissage. Du coup, j'ai fait cette année de troisième en ayant beaucoup d'alternance en ébénisterie et j'ai pas eu le brevet de collège. Donc, niveau scolaire catastrophique, et c'est ce que je dis souvent aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que j'ai du coup des valeurs fortes à apporter. Je vais souvent faire des témoignages dans les écoles auprès des jeunes. Je n'ai pas travaillé le français, l'orthographe. J'ai de la chance d'avoir une belle expression. Je m'envoie des fleurs oralement, je m'exprime plutôt bien. Mais en termes d'orthographe et d'expression écrite, c'est la catastrophe. Je vais me faire relire pour toutes mes publications sur les réseaux, pour toutes mes lettres, pour mes courriers. Et l'anglais, c'est pareil. C'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir appris l'anglais parce que du coup, aujourd'hui, enfin, voilà, c'est tellement de choses qu'on m'a rabâchées tout le temps, qui n'ont jamais été assimilées, que j'essaye de défendre à mon tour parce que finalement, il y a des regrets qu'on a aujourd'hui. Donc non, pas studieux, pas très discipliné, mais à la fois, j'ai fait un apprentissage d'ébénisterie, du coup après cette année de troisième. Et là, quand je suis sorti majeur de ma promo, Ça tombe bien en France. Je suis sorti de la chrono avec meilleure note de monde de la, des apprentis, de mon diplôme d'ébéniste. Ça fait 3 ans d'apprentissage. Et voilà, avec un patron dur, qui avait une petite boîte à faire tourner en Dordogne, et qui, à la fin, me faisait faire des tables basses en série. Je le fais tout seul pour faire tourner la boîte. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a, voilà, souvent les gens disent qu'ils ne connaissent rien à la vie, au travail, etc. Mais si, j'étais apprenti ébéniste à faire tourner une boîte, à faire des tables basses en série, et j'ai eu du bol parce que le jour de l'examen, c'était une table basse, donc je l'ai fait assez rapidement. Mais cette année d'apprentissage, on était durs, mais voilà. C'était pas très studieux, mais encore une fois, c'est tout ça qui m'a façonné et qui a fait l'homme que je suis.
Et qu'est-ce qui justifie ce switch, tu vois, entre l'enfant un peu turbulent, un peu perturbateur, qui a pas envie de travailler, et justement l'enfant qui s'épanouit beaucoup plus dans le monde professionnel, qui a envie de se donner à fond. C'est une discipline d'un patron qui est différente de celle des profs. Est-ce que c'est l'argent qui donne un peu du sens? Est-ce que le fait que ça soit un travail manuel et il y en a très peu à l'école? Qu'est-ce qui justifie que justement tu t'épanouis?
Toutes les matières sont en relation avec ton apprentissage. Donc là, tout ce qui était en maths, c'était par rapport à fabriquer des meubles avec leur superficie, etc. Donc tout était en liaison. Donc tout essaye de travailler pour avoir son diplôme parce que ça me plaisait d'être dans ce corps de métier-là et d'avoir des gens. Je faisais aussi de la restauration de meubles anciens et d'avoir des gens qui amenaient un meuble tout pourri, tout cassé, qui avait une histoire pour eux et qui leur redonne quelques mois plus tard remis à neuf. Il y avait une relation humaine forte et ça, du coup, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Qui me plaît encore aujourd'hui, bah, je peux plus exercer, mais j'ai d'énormes, de magnifiques souvenirs en tant qu'apprenti qui resteront à jamais gravés. Et du coup, je me suis construit, j'ai fait ces 3 ans d'apprentissage. Et là où ça a eu ses limites, c'est que sur la 3e année d'apprentissage, je me sélectionne au championnat du monde de cross en junior. Et là, j'ai pu te congé et le patron me dit, ouais, mais c'est super et tout, mais je peux pas te, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais prendre des congés sans solde, je vais pas t'offrir à, c'est normal, il a sa boîte à faire tourner. Et du coup, je suis allé au monde de cross en congé sans solde. Donc ça, ça a été un point qui a été quand même assez compliqué. Donc là, je me suis dit, voilà, il va peut-être falloir réfléchir à la suite. Et en plus de ça, je me rappelle aussi de certaines séances où j'arrivais le soir, où j'avais déchargé des meubles, des bits de bois, enfin des trucs, un travail physique toute la journée assez conséquent, des bits qu'on boit pour le ranger dans le stock. Du coup, t'as plein de poussières de bois qui viennent dans tes cheveux, etc. Et je tirais à l'entraînement pour être à l'heure, et je me rappelle de certaines séances où je transpirais, et du coup, transpirais noir de la poussière de bois qui me coulait dessus. Du coup, ouais, c'était pas, t'avais une journée de ouf, et puis on traînait derrière. Et du coup, j'ai eu un choix de vie qui a été conséquent. Mon père a pris cette option de faire, à cette époque, de faire de son métier son revenu principal et d'être professeur des écoles et de mettre le sport en parallèle à ça. Moi, avec mon père, il a dit, écoute, moi, j'ai tenté dans ce sens-là, on va tenter dans l'autre sens avec toi si tu souhaites. Donc, tu as ton diplôme d'ébénisterie, mais après ce diplôme, moi, je t'accompagne financièrement. Tu auras un petit chômage quand l'aventure à fond en athlète. Savoir que sur mon apprentissage, j'étais trop loin du domicile de ma mère qui était séparée de mon père. Mon père était en Eure-et-Loir, ma mère à Périgueux. Mon lieu d'apprentissage était trop loin. Du coup, j'ai eu un appartement à 16 ans et demi, donc j'étais très peu livré à moi-même. Encore une fois, c'est un peu une histoire qui m'a construit. J'ai mes 3 ans, j'ai mon diplôme. Mon père me dit, j'ai fait cette année-là. Je suis livré à moi-même. Je fais 1 an de jeux vidéo. Je m'entraîne à 14 heures, je m'entraîne à 18 heures. Enfin, complètement aux antipodes d'une préparation d'un sportif de haut niveau. Et ça a été assez, assez spécial. Mais du coup, encore une fois, un fait de vie, c'est que je rencontre une personne à mon club qui me dit, avec mon coach, qui discute avec mon père, qui discute avec plusieurs personnes. Et là, on me dit que c'est pas possible de faire du jeu vidéo comme ça. Aujourd'hui, je serais un pro gamer, vu l'investissement que je mettais dans le jeu vidéo. J'étais dans une guilde, c'était la plus grosse de France, dans un jeu vidéo en ligne. Enfin, c'était à des heures et des heures de, voilà, je le sortais plus, si ce n'est pour m'entraîner, je faisais rien d'autre. Manger, jeu vidéo, entraînement, avec des horaires complètement incompatibles avec le sport de niveau. Mais bon, malgré tout, je me resélectionne quand c'est aux Europe Espoir. J'arrive à redécrocher une sélection. La personne qu'on rencontre de mon club me dit, t'as quand même un bon niveau. Nous, on a des possibilités à la gendarmerie de 1 an de chômage. J'ai fait du travail à droite à gauche, voilà, un peu comme ça, à monter des cuisines, à bidouiller, quoi. Plus à jouer aux jeux vidéo, surtout. À continuer de m'entraîner. Mais avoir la chance de pas me blesser. À me resélectionner au championnat d'Europe, octobre 2006. J'étais junior, je me qualifie au monde junior à Pékin en Chine. Et quelques semaines, mois plus tard, j'intègre la gendarmerie. Ça a été un événement de gauche important parce que ça m'a apporté une rigueur, une discipline, quelque chose encore un peu plus structuré que d'être pas moi-même dans mon petit appart.
J'adore. Tu vois, c'est riche en anecdotes, c'est concret, on se projette tout de suite, tu vois, et on imagine le petit jeune que t'es. Mais j'ai l'impression que ton père a eu énormément confiance en toi. Est-ce que lui, il voulait vivre l'histoire à travers toi? Est-ce que, au contraire, c'était plutôt conflictuel?
Non.
Et t'as dû l'arracher, ton statut?
Non, je pense qu'indirectement, non, il voulait juste, il n'a pas pu le tenter lui, donc me l'a offert, entre guillemets. Lui, il a eu aussi ses périodes où il était international jeune, il a voulu passer sur les seniors, il s'est blessé, il a tenté de tripler, de s'entraîner comme un fou pour revenir, il s'est reblessé, ça a été pire. Et du coup, il a dit, je vais peut-être aider mon fils. Enfin, c'est pas de tête, il m'a aidé pour essayer d'avoir cette carrière que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est franchement, forcément grâce à lui parce que, ouais, ça a jamais été de la jalousie, hein. Bien au contraire. Dès que j'ai battu son record sur Steve, j'étais super content. Enfin, ça, j'étais tout le temps dans le bon sens. La première sélection, quand je me sélectionne au monde de cross en junior, il était là sur le cross. Enfin, voilà, il a toujours suivi. Encore aujourd'hui, quand je l'appelle, la première chose qu'il me demande, c'est mes séances, mes chronos, comment ça va, est-ce que je prépare. Enfin, il vivra toute sa vie athlée. Il a été fondateur d'un club d'athlée en Eure-et-Loire. Il a été connu, il est connu et reconnu pour son niveau et pour l'investissement qu'il a eu pour le sport et l'athlétisme de manière générale en Eure-et-Loire. Donc, ça en enlèvera à rien sa passion et justement, ça prouve qu'il est tellement attaché à ce sport-là qu'il a vécu sa vie pour le sport.
Ok. Tu vois d'autres avantages ou d'autres, on va dire, points positifs que tu as pu avoir par rapport à d'autres adversaires, d'avoir justement un père comme ça aussi impliqué, aussi qui connaît autant le haut niveau. Est-ce que ça t'a transmis d'autres choses, tu vois, que ça? Moi, j'aime bien savoir comment un peu les gens se construisent. Et quand tu me dis que tu étais turbulent et qu'après, tu es devenu très discipliné, je me dis bon, il y a sûrement une question qui joue ou des expériences de vie, mais tu vois d'autres avantages que tu as pu avoir?
C'est surtout d'avoir été livré à moi-même pendant ces 3 ans d'apprentissage. Les 3 ans où j'étais livré à moi, je n'ai pas à moi-même. Un peu la liberté de faire ce que tu veux. Je mangeais des kebabs à tout va. J'avais la meilleure carte de fidélité du kebab à côté de chez moi. Je ne sortais pas parce que j'ai eu de la chance. Ça, j'ai jamais été très soirée ou bar, etc. Donc, ça, j'ai eu de la chance. J'ai eu 2 vidéos. Et après, j'ai eu cette rencontre avec ma femme, qui est ma femme aujourd'hui, la mère de mes enfants, qui m'a amené un petit plus avec ce passage à la gendarmerie. Ça s'est fait un peu en même temps. J'ai rencontré ma femme juste avant les mondes juniors. Pour l'anecdote, elle sonnait chez moi pour venir dans mon appart et j'étais en plein game et je ne l'ai pas ouvert la première fois. J'étais quelqu'un d'assez vraiment, je vous donnais le personnage, assez fou dans le jeu vidéo. C'est ce passage à la gendarmerie. En fait, quand tu arrives à la gendarmerie, on m'a dit bah, tu fais des sélections, tu peux avoir 3 jours de classe et tout. Et là, d'une volonté en accord avec mon père, mon coach, on s'est dit non, 3 jours, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas utile. Fais les 6 semaines comme tout le monde. Pas le statut de sportif de haut niveau, et là, fait 6 semaines. Là, j'ai fait 6 semaines, des petites classes, hein, pour ceux qui font vraiment l'armée et font vraiment des formations militaires, ils savent très bien que c'est des milliers ridicules, et ça m'a fait un bien fou, se lever à 6h du mat, marcher au pas, faire son lit au carré, respecter des grades, apprendre des grades, voilà, tout un tas de choses qui ont été importantes, et je me souviens aussi encore, quelques années plus tard, en 2009, où je fais les championnats du monde senior, mes premiers mondiaux en extérieur, hôtel de assez luxueux, ambiance de fou, on est dans un petit cocon pour être voilà, vraiment dans un mode performance et j'arrive quelques jours après à la caserne, retour les pieds sur terre où j'ai un chef qui me fait claquer un garde à vous parce que je ne l'avais pas salué et il me dit ouais, c'est pas parce que vous passez à la télé que ça vous empêche de faire de saluer vos supérieurs à part, j'ai fait claquer un garde à vous pendant 1 minute sur place devant lui et puis voilà, retour à la réalité. Donc tout ça, ça m'a façonné, je répète souvent ce mot là aujourd'hui, façonné, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a voilà, construit et qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Une autre anecdote assez sympa, c'est que première sélection en équipe de France, du coup, en cross, 1 mois ou 2 mois plus tard, je reviens au club à l'entraînement avec toute ma tenue équipe de France sur moi, des pieds à la tête, hein, vraiment la casquette, tenue, etc. Et là, mon coach, il m'a remballé, il m'a dit, non, mais nous, il n'y a pas de star dans le groupe, on m'enlève ça tout de suite, on est tous pareils, il n'y a pas de coval à l'équipe de France, etc. On retourne au Farbon, et voilà, ça s'est très bien, ça s'est passé. Ben, tu sortes de temps en temps, mais là, j'avais toute la panoplie, quoi. J'étais fier, mais c'était peut-être un peu trop. Et ça, ben, encore une fois, ça m'a appris à ce que je suis aujourd'hui et à rester simple, humble et à avoir cette discipline aussi et cette figure militaire même.
Tu vois, là, tel que tu le racontes, on a l'impression que c'est une suite d'événements et que ça a presque été facile, tu vois, d'acquérir un peu cette discipline, cette humilité. Il n'y a eu aucun moment où, justement, ça a été un peu de la souffrance ou au contraire, tu vois, il a fallu que tu te forces et que tu ailles un peu contre nature pour l'obtenir.
Pas vraiment, j'ai pas de souvenir de moments où je me suis forcé. Enfin, je te dis, ça a été, ouais, on se construit par soi-même, même si on a une des fortes bases d'éducation, on peut se créer l'avenir que l'on souhaite. J'ai une ligne de conduite que je dis souvent à mes enfants qui peut-être, on me l'a pas éduqué de cette manière-là, mais c'est quand tu tentes quelque chose, tu le tentes à fond, sinon tu le fais pas. Enfin, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir comme valeur de vie. Et c'est tout ça qui m'a rythmé toute ma carrière. C'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais bien, je le fais à fond. Quand j'ai intégré l'armée, j'ai fait les 6 semaines, je les ai fait à fond. Quand j'ai rencontré ma femme, je me suis mis à fond dans notre relation et tout aussi. Enfin, pas au début parce que je n'ai pas ouvert la porte, mais après ça, ça a été voilà, ça a été une continuité. Et j'ai décidé de mettre l'athlète en pied central de ma vie. Une chose que je ne conseillerais à personne aujourd'hui parce que c'est complètement compliqué de ne pas avoir de bagages ou autre. Donc, j'ai eu mon CAP d'ébénisterie. En gros, j'ai mis l'atelier au cœur de ma vie. Et j'ai construit tout autour, tout le reste autour de cette passion et de cette, voilà, cette envie d'être performant. Et donc, c'est toutes ces étapes où je me suis donné à chaque fois 100% dans chaque étape pour être surtout sans regret. Il y en a des regrets en compétition, etc. Mais tout ce que j'ai pu construire, je l'ai fait au max avec le maximum de mes capacités, de mes valeurs et de mes possibilités pour ne pas regretter. Et du coup, ben, ça fait que ben, voilà, l'armée te respecte. Il y a des petits écarts. Enfin, des petits écarts, c'est jamais parfait. Et tu essayes. Et du coup, je pense que ça a été facile, non, parce que quand tu es livré à toi-même à 16 ans et demi dans ton appart et que tu gagnes 100 balles par mois, au final, quand tu regardes ça avec du recul, ben voilà, j'ai été livré à moi-même, c'est pas que je roule sur l'or depuis, mais j'ai eu vraiment des années assez galères, ouais, à sortir d'une famille simple, c'était pas conséquente. Aujourd'hui, après, j'ai eu des années de carrière, après 2014, 2015, 2016, 2020, où je pouvais faire des stages où je voulais dans le monde, sans me préoccuper de l'aspect financier et de l'aspect, voilà, de ce que ça allait coûter. Donc non, j'ai une très belle chance de vie, j'ai construit tout ça, et je pense que, encore une fois, je l'ai mérité, je l'ai volé à personne, en tout cas, quelque chose qui s'est forgé petit à petit, voilà, sur du travail, tout simplement. Comme on dit souvent, enfin, j'ai eu la chance d'intervenir dans des séminaires de tête d'entreprise ou autre. Finalement, les mêmes lignes de conduite de ceux qui ont réussi, des PDG, qui sont plus au sommet en politique, ou souvent, c'est des gens qui, on voit, il y a souvent cette image sur Internet où on voit que la face visible de l'iceberg, et tout ce qu'il y a comme fondation en dessous, mais c'est vrai qu'on le voit pas. Et tous ceux qui ont réussi dans quel phénomène que ce soit, c'est très rare, parce que ça tombe du ciel. Et souvent, il y a d'énormes bases derrière, d'énormes heures d'investissement, de réflexion, de moments de doute. Mais à chaque fois, il y a un entourage, il y a une motivation, il y a tout un tas de choses qui font que les gens sont là où ils en sont aujourd'hui. Et en gros, j'ai envie de dire, entre guillemets, de manière générale, on mérite ce qu'on provoque. Et voilà, là, c'est cette éducation que je donne à mes enfants, que j'essaie d'avoir aussi avec ma femme, de se faire confiance. Et aujourd'hui, elle vient de quitter son job pour tenter l'aventure avec moi dans la communication, dans la vie. On peut se faire aujourd'hui comme en extra sportif. Et du coup, faut le faire, ce pas-là, parce que tu as un travail safe avec ton salaire mensuel pour tenter un truc qui n'existe pas. Mais au moins, tu tentes. Si ça marche, ça marche. Tant mieux. Si ça marche pas, au moins, tu auras essayé de le faire. Et on verra dans un an, deux ans, on fera le point. En attendant, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. Tente les choses et après, tu vois que ça provoque.
Tu l'as dit à l'instant, quand tu fais les choses, tu les fais à fond. Quand tu mets les chances de ton côté, tu te donnes à 100%. À quel moment tu t'es rendu compte de l'importance de l'aspect du mental, de la psychologie, du fait qu'il faut muscler son cerveau quand on est champion? Dans beaucoup de sports de course, en tout cas sur la course à pied, bah on pense qu'il y a uniquement le corps qui court. Toi, tu t'y es intéressé très tôt. Qu'est-ce qui a été un petit peu le déclic pour t'y intéresser?
Déjà, faut savoir que pour moi, il y a plusieurs personnalités. Il y en a qui en ont besoin et d'autres qui vont avoir toute une carrière sans avoir besoin d'avoir un préparateur mental, un sophrologue, un psychologue ou un mentor. Moi, c'est plus simple. 2011, on est au championnat d'Europe. C'est à la maison, c'est à Bercy. Je suis favori. J'ai le meilleur temps des engagés sur 1500 et sur 3000 mètres. Je choisis le 1500 mètres. Donc, j'arrive meilleur temps des engagés sur ce championnat-là. Et il y a une nouveauté pour moi, c'est la mise en avant médiatique, l'équipe, France Télévisions, etc. Enfin, j'ai beaucoup de reportages d'attente, en fait. Parce que je suis favori, simplement, j'ai le meilleur temps de m'engager. Et je me souviens de l'étoffement où je vois, il y a ma femme qui était venue, je dis, ben, je sens pas, enfin, j'avais peur de perdre. J'ai participé à ce championnat d'Europe avec la peur de perdre. Ben, ça a pas loupé, hein. Je passe même pas les séries pour n'importe comment, que à l'extérieur du couloir 1, je fais plus de mètres que les autres. J'arrive pas à me qualifier en finale, mais vraiment, plus sûr de la gestion de l'effort et psychologique, vraiment psychologique, plus que sur un physique, sur la santé. Et du coup, cette peur de perdre, ça a été un élément vraiment qui a déclenché pour moi cette motivation d'aller voir ce que je pouvais travailler à l'aspect psychologique pour être performant. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, j'essaie de construire tout au mieux pour être le plus fort possible. J'ai vu que j'avais une défaillance. Ben, qu'est-ce qui, à ce moment-là, peut m'apporter un plus? Et à ce moment-là, ben, on m'a orienté vers la sophrologie. Parce que courir avec la peur de perdre, enfin, c'est vraiment une défaillance, alors que d'être courir avec l'envie de gagner, l'envie de se surpasser, etc. Et là, c'était trop conséquent. Et donc, ben, j'ai commencé avec la sophrologie, qui m'a apporté vraiment des éléments que j'utilise aussi encore aujourd'hui. Et du coup, ça a été quelque chose en 2011 qui a été conséquent pour moi, parce que cette peur de perdre m'a brisé en fait mes rêves de médaille à la maison. Et finalement, c'est peut-être un mal premier avec 2012 aux Jeux. Après, je sais que je suis en série, en demi-finale des Jeux. Et c'est pas l'impression qui me fait perdre ce passage en finale. C'est déjà, pour l'anecdote, à ce belge qui propre, qui est tombé positif par la suite. Donc, le premier donc en finale des Jeux. Et après, c'est aussi une mauvaise gestion de course. Mais j'étais prêt physiquement et psychologiquement, parce que j'avais un an que je travaillais en sophrologie, et du coup, ça m'a apporté vraiment des éléments conséquents.
Il y a des exercices qui ont été plus pertinents que d'autres ou dont tu as trouvé plus de bénéfices que d'autres, tu vois, aujourd'hui, si tu pouvais partager peut-être, je sais pas, une routine ou une méthode ou un exercice que vraiment t'affectionnes tout particulièrement à quelqu'un qui voudrait un peu découvrir peut-être la sophrologie par lui-même.
Ouais, la sophro, ça m'a amené, allez, on va dire la plus grande ligne, c'est déjà de me mettre dans ma bulle sur la ligne de départ. Et le truc que j'ai encore, mais qui est lié aussi avec les méthodes que j'utilise aujourd'hui, c'est d'avoir un lieu ressource. En fait, quand je suis souvent sur la ligne de départ, on dit souvent que je suis le seul qui ferme les yeux, etc. Pendant l'espace de quelques secondes, je ferme les yeux et je me retrouve dans un autre endroit. Pour donner une idée, mon lieu ressource actuel, c'est ma femme et mes enfants sont venus au Kenya en février. Ils m'ont suivi à moto. C'est un petit run tout cool, hein, ça va pas vite du tout. Et on est sur la terre rouge du Kenya. Il y a un grand soleil, il fait beau, on est bien. À 12-13 à l'heure.
Imagine.
Et là, je tourne la tête et je vois ma femme derrière le chauffeur parce que t'es à 4 sur la moto. Mes enfants qui sont là et qui me suivent. Enfin, tout le monde a le sourire, tout le monde est dans un bien-être. Et j'ai engrammé ce moment-là. Et ce moment-là, quand je suis souvent sur une ligne de départ, là, comme je l'étais à Munich ou dans plusieurs compétitions que j'ai pu avoir, l'espace de quelques instants sur la ligne de départ, je fais un geste et qui me reproduit et qui me reprojette vers celui ressource. C'est le temps de 3-4 secondes. Et ça te fait un peu relativiser les choses face à l'événement. Et ça te fait du bien, tu arrives à te déconnecter, à être à l'autre bout du monde, dans un moment de bien-être. Et ça, c'est hyper sympa, c'est hyper puissant en fait. Sur l'instant T, c'est vraiment fort et c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui.
Je partage également cette méthode. Moi, j'ai exactement pareil une scène que je me revisualise dans les moments un peu de stress ou les moments où je peux avoir tendance à perdre un peu confiance en moi. Moi, c'est quand j'étais un peu plus jeune, je passais un diplôme de coaching. J'organisais des séances de coaching gratuitement, tu vois, un peu de cross-training. Je me revois, tu vois, devant 50 personnes avec mon t-shirt rouge en train d'expliquer comment faire un squat.
D'accord.
Et tu vois, à ce moment-là, j'étais en pleine confiance en moi. Les gens m'écoutaient, m'apportaient. Et à la fin, me remercier énormément parce que je leur apportais beaucoup de valeur. Et tu vois, c'est un truc que, boum, je leur mets. Et moi, c'est le claquement de doigts, tu vois, que j'avais pour interpeller les gens dès qu'ils arrêtaient un peu d'écouter et qui marchaient, que je réutilise pour me replonger dans cette scène. Donc, je confirme à quel point c'est puissant ce type d'outil. Tu as utilisé d'autres méthodes. Je sais, une petite souris m'a dit que tu avais effectivement bossé avec Pierre David. Donc, tu as dû sûrement goûter à la dépolarisation. D'ailleurs, ça m'a fait tilter parce que tu as parlé d'humilité au début et je sais que c'est un des gros sujets avec Pierre. Mais tu peux nous dire, un peu toutes les méthodes que tu as testées et peut-être celles qui t'ont permis de faire passer des paliers. Alors, il n'y a souvent pas des paliers, c'est souvent, comme tu l'as dit, c'est une suite logique et continue. Et peut-être toi, les méthodes un peu qui t'ont vraiment tiré vers le haut.
Mais depuis, en fait, j'ai eu fait donc, la sophrologie qui a été vraiment l'élément que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai testé la psychologie du sport avec un psychologue de l'INSEP parce que je voulais voir et me renseigner aussi. Ça m'a apporté un vrai plus dans l'échange, mais je trouve que je n'ai pas eu d'outils après pour utiliser sur l'instant T. Et après, j'ai eu la dépolarisation que j'ai fait avec Pierre David. Déjà, dans l'humain, c'est quelque chose d'énorme et conséquent. Et là, d'apporter une simplicité face à l'événement. OK, c'est des jeux, mais qu'est-ce que ça t'apporte en plus ou en bien ou en moins bien? Enfin, voilà, de savoir faire. En gros, j'aime beaucoup la phrase où il me parle du dé, que les deux faces du dé, ça fait tout le temps 7, quel que soit le sens où tu tournes le dé. Donc, toi, tu vois le 5, l'autre derrière va voir le 2. Il a dû t'en parler forcément. Ouais. Et j'aime énormément ce concept-là où, en gros, tu as ta vision des choses. Tu vois le 2, l'autre derrière voit le 5, ou tu vois le 5 et voit le 2, ou tu vois le 1 et voit le 6, etc. Ça fait tout le temps 7 au final. Donc chacun a son avis et chacun a sa vision des choses, mais qui au final, enfin, ça revient au même, enfin, c'est exactement pareil. Et il m'a amené en gros à arriver devant face à un événement réussi ou loupé. Moi, on a commencé à travailler énormément ensemble avant les Jeux de Tokyo, que je n'ai pas fait. J'allais tout perdre au moment de prendre cette décision de ne pas faire les Jeux. Je savais que ça allait être conséquent. Et pourtant, je pense que j'étais capable d'y aller et j'ai fait le choix d'annoncer publiquement que je participerais pas.
T'avais déjà pris ta décision de te mettre sur marathon à ce moment-là?
Non, c'était avant. La décision de passer sur marathon, elle s'est faite avant. Mais ça m'a amené le fait de pas avoir cet aspect financier qui est prédominant dans ma tête, d'avoir cette perte de partenaire, cette peur de contre-performance, de pas faire un objectif que j'ai réussi. Et effectivement, ça a été quelque chose. J'ai annoncé que je faisais pas les Jeux parce que finalement, je serais allé aux Jeux. Je pense que j'avais le niveau d'aller au jeu, mais j'aurais fait la série après, vu la douleur, j'aurais pas pu courir en finale 2 jours après. Donc, j'aurais gardé mes sponsors, j'aurais gardé les aides que j'ai pu avoir. Finalement, j'aurais peut-être perdu une suite de carrière, une blessure plus conséquente. Et au final, j'ai perdu beaucoup de choses, mais qui m'ont apporté énormément de choses par la suite. Donc, en fait, ça, je l'avais finalement écrit dans le fait du plus et du moins, ce que ça allait m'apporter de pas faire les jeux. Il y avait plus de moins que de choses favorables. Et les choses favorables ont pris une part encore plus conséquente. Et j'ai vraiment relativisé face à l'événement. Bien évidemment que ça m'a fait mal quand j'ai dit que je n'ai pas participé, que ça a été très compliqué à digérer. Mais j'avais tellement travaillé sur cet aspect-là que ça a été une période un peu difficile, mais j'avais des outils pour me permettre de surmonter ce moment de vie assez compliqué. Parce que c'était une nouveauté pour moi. En 16 ans de carrière, quand tu n'es jamais blessé, que tout s'est toujours bien passé, tu as fait tous tes grands championnats, tes championnats de France, tout dans l'esprit que tu souhaitais le faire. Et que là, t'as un truc qui arrive, bah, t'as beau avoir le meilleur préparateur mental ou la meilleure aide psychologique à côté, il y a quand même ton aspect humain qui prend le dessus. Et là, ça a été un énorme travail et ça m'a fait énormément de bien. Donc, ça a été la bonne personne au bon moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore en contact. Voilà, j'ai raté ce premier marathon, on a travaillé ensemble en amont et on va continuer à reprendre pour la suite sur le prochain. Et c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui et qui m'aide vraiment à aborder les choses d'une manière différente. Ok, c'est raté, j'ai loupé, je ne peux pas atteindre les objectifs, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Mais l'avenir nous le dira. Donc en attendant, j'ai des outils qui me font vraiment relativiser. C'est ça qui est appréciable dans cette préparation-là.
Je cautionne à 100% le travail avec Pierre. C'est vrai qu'il a un talent pour effectivement te faire voir l'autre côté du dé et l'autre chiffre, ce qui permet en fait de toujours voir les côtés positifs, même dans des situations qui sont pas toujours évidentes. Et surtout, il y a un gros travail par rapport à l'identité. Je sais pas si toi tu l'as fait beaucoup ce travail-là, mais en tout cas sur moi ça a été très intéressant, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Ben oui, surtout une prise de confiance personnelle sur toi-même et sur tous les événements. En gros, la grande ligne, c'est ça, ouais. Une bonne prise de conscience sur toi-même et sur tous les événements. Et sur ce que tu peux exprimer comme personne et ce que ça peut apporter aux autres aussi. Donc c'est vrai que c'est un bon résumé, très bon résumé.
J'ai appris en faisant mes petites recherches aussi que ça t'arrivait des fois de courir et de te visualiser, je sais pas, sur les 200 derniers mètres. Ouais. Courir contre Kipchoge ou les plus grands, fermer un peu les yeux et complètement éclater le chrono que ton coach t'a donné parce que tu as envie de te laisser pousser des ailes et de vivre un peu des rêves. Est-ce que il y a d'autres petites routines que tu fais un peu régulièrement comme ça pour casser des barrières mentales, pour te faire plaisir ou juste pour ton bien-être, tout simplement pour être heureux?
Bah ça, tu l'as dit, hein, c'est vraiment l'élément majeur pour moi de la bien-être. Et comme aujourd'hui encore, j'enfile mes baskets à chaque journée que je peux avoir dans la pratique de la course à pied avec autant d'amour et autant d'envie. Enfin, franchement, c'est quelque chose qui me plaît. C'est ça qui est fort. Et je pense que d'apporter de la diversité dans l'entraînement, c'est ce qui me fait aussi continuer à avoir cette même motivation, cette même envie. Et cette visualisation-là, je pense que tout le monde l'a fait un jour ou l'autre et tout le monde se visualise et ça fait du bien. Enfin, c'est vrai que imagine contre les plus grands coureurs du monde, et ce qui a déjà été le cas sur des courses, j'ai déjà couru avec les meilleurs du monde. Mais là, c'est te voici, au lieu de subir, tu matches aux avant-postes et tu joues pour la gagne. Ah, ça t'apporte un petit moment d'endorphine, de bien-être, tu vas terminer plus vite et ça va peut-être te faire progresser un petit peu aussi. Après, faut pas que ça arrive tout le temps sur tous les runs et toutes les séances, sinon tu vas t'exploser le psychologique, le physique et ça va être plus que contre-productif. Mais d'avoir cette partie de rêve et toutes les phrases de motivation, toutes les phrases qu'on peut trouver ou les dictons et toutes les. Ça, ce qui compte sur Internet là, énormément en ce moment dans les réseaux sociaux. Finalement, ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que je t'arrête jamais de rêver, les trucs de Disney, enfin, toutes les phrases assez connues ou moins, ben, c'est important. Enfin, c'est vrai qu'on est en train de tout dur, quel que soit son niveau, quel que soit son envie ou ses capacités. On a tous un objectif en tête. Se surpasser dans des petits moments à l'entraînement pour aller chercher cet objectif, ben, c'est juste gagner à l'arrivée si ça te passe bien. Donc, faut trouver le bon dans ces moments où des fois tu vas aller courir aussi il pleut ou il fait froid ou t'as peut-être pas envie, etc. Mais si tu as cette petite stimulation de fin de course qui t'accélère avec ton demi-frère ou je sais pas qui tu peux visualiser, tu n'es pas forcément obligé de visualiser le meilleur du monde, mais ça peut t'apporter un petit coup. Mais bien le gérer, en tout cas. Il ne faut pas être trop dans l'extrême.
C'est ça, finalement, la clé de la longévité, la clé de la diversité dans le sport. Tu vois, tu fais partie des rares athlètes quand même qui se lancent des plein de challenges pour passer d'une discipline à une autre ou d'une distance à une autre. Est-ce que c'est ça, la clé, de s'autoriser un peu à rêver, de s'autoriser à mettre du jeu un peu dedans et pour pouvoir continuer à rêver comme un gosse, quoi? Est-ce que c'est ça, finalement, la clé de la longévité?
C'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a pas plus tard que quelques heures, je sors de ma séance sur le tapis roulant et j'ai un coach belge qui vient me voir et me dit « J'ai vu ta page là, t'es un bon coureur de 1500, t'es un bon coureur de strip, pourquoi t'arrêtes le strip et tout, t'as des gros chronos, t'as encore des chances. » Et je lui dis « En vrai, l'an dernier, j'ai fait un 3000 mètres aux interclubs, j'étais 8-0, c'est souvent des chronos que je réalisais pas en pleine carrière quand j'étais spécialiste du 3000 strip. » Et mon coach m'a dit « Là, c'est clair que t'as encore les capacités de faire 8-15, les minima pour les genoux, ils sont faisables. » Très honnêtement, c'est pas, encore une fois, je connais ce que je fais à l'entraînement, je vois mes capacités. Aujourd'hui, je te le dis très ouvertement, si je prépare Tokyo 2020 sur 3000 mètres type, il y a de fortes chances que ce soit dans les minima. Après, il y aura peut-être meilleur que moi en termes de français, mais il y a de fortes chances que ce soit sur la ligne de départ des Jeux Olympiques. Mais j'ai choisi de passer sur marathon, d'avoir ce nouveau challenge, cette nouvelle target. En prorata et en statistique, je pense qu'il y a 90% de chances que j'y sois sur steep. Sur marathon, aujourd'hui, si on voit mon chrono actuel, il y a peut-être 30% de chances que je sois sur le steep. Mais c'est ce challenge qui me motive et qui me donne l'envie de montrer que je suis capable de le faire, de me surpasser. En fait, c'est ça qui me booste. C'est ce petit pourcentage-là, de le transformer dans l'autre sens. Que ce soit plutôt un 80% de chances que je sois sur marathon et que je sois plus capable de faire un bon steep, qui me donne cette motivation d'aller au quotidien m'entraîner, me surpasser. Et en plus de ça, j'ai l'avantage d'énormément aimer ce que je fais et de faire des bornes ou des séances longues. Ça me dérange, mais alors pas du tout. Franchement, j'ai encore fait 20 bornes sur le tapis roulant ce matin. Enfin, je l'ai fait, je vais pas dire avec le sourire, parce qu'en salle, c'est moins fun que d'aller courir à l'extérieur, mais bon, il y avait des conditions qui étaient catastrophiques. Mais voilà, ça me fait pas peur, là, il y a le soleil qui est en train d'arriver, je te disais tout à l'heure. Je vais faire 10, 12 bornes. Je vais me freiner pour pas faire trop, parce que sinon, je sais que je peux faire une boucle de 15, 20 bornes encore ce soir. Et bon, ça fait une trop grosse journée, donc. Enfin, j'aime vraiment ça. Ce challenge-là, d'avoir changé du 1500 vers le 3000 steep, du 3000 steep vers le marathon, c'est ce qui aussi me motive, de pouvoir avoir la chance de changer d'épreuve, d'avoir des nouveaux challenges, voilà, des nouvelles ambitions. Ça me pousse au quotidien et voilà, quand il y a un petit moment de figure, je pensais à ça, à pourquoi je le fais. Et en tout cas, tout tenter pour le faire. À la base, j'avais exprimé mon challenge de passer sur marathon avec une ambition de faire un chrono de moins de 10. Là, les minima sont tombés à 2,30. Du coup, le challenge est encore plus élevé que prévu, et finalement, en termes de français, ce sera l'année la plus compliquée, je pense, pour aller au jeu. Mais voilà, si je lâche les bras maintenant, pour moi, ce sera perdu. Si jamais j'arrive à faire moins de 2,10, très belle victoire. Si je fais moins de 2,20 et que je me qualifie en termes de chrono au jeu, mais qu'après, il y a trois Français meilleurs que moi, ça sera juste monstrueux. Bien évidemment que je serai déçu de pas aller à la maison, mais déjà, faire 2,8 dans mes rêves, je ne l'ai pas prévu. Moi, c'est vraiment, je me suis vraiment mis la barrière de 2,10 à la base, tu vois, dans ma tête. On va être sincère, hein, je ne vais pas mentir. Donc, ces minima, elles m'ont surpris, elles m'ont fait peur, elles m'ont fait douter pendant il y a quelques jours. Là, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Ça m'a mis la boule au ventre en disant, c'est dur, et ça, je ne vais peut-être pas y arriver tout. Ça a duré 2 jours. Et là, depuis, c'est reparti. Allez, on y va et on va tout tenter. Regarde ce que fait Navarro, regarde ce que fait Chadi, Stoker, Durand, Malati, les copains, tout ça. Et inspire-toi de ce qu'ils font en adaptant à ce que tu sais faire pour arriver à les challenger et à être le meilleur possible à l'instant T. Encore une fois, je mets tout en place et je reconstruis les fondations. Hier, j'ai pu reprendre pour la première fois une séance de muscu, vivre tranquillement, voilà, step by step, comme on dit souvent. Voilà, il y a aussi la phrase que j'ai mis ce matin dans ma publication, training hard, win easy, qui est symbolique au Kenya. Training hard, oui, ok, mais de la bonne manière. Et ça, avec l'expérience que j'ai, les 35 ans que j'ai aujourd'hui, les 16 ans de carrière en tant que sportif de niveau, et voilà, j'essaie de tout structurer pour m'entraîner dur, mais m'entraîner correctement. Donc voilà, la motivation et la longévité, elle s'est faite autour de ça. Et encore un petit détail aussi, c'est que dès le début de ma carrière, j'ai toujours investi, ou j'ai toujours eu l'accompagnement des choses les plus adaptées pour récupérer. J'ai eu des bottes de pressothérapie assez tôt, je viens des Français, les chaussettes de récup, j'ai toujours eu un kiné qui est venu me faire des massages depuis 2012. Je faisais 3 séances, enfin, il me fait encore aujourd'hui 3 séances à domicile au Kenya, elle a fait un massage tous les 2 jours. J'ai acheté un bain froid, j'ai un jacuzzi, enfin, je suis pas l'INSEP, donc j'ai tout petit à petit, d'année en année, investi pour me faire sponsoriser ou être équipé dans la meilleure des options possibles. Je suis allé au CERS à Cap-Breton, j'ai découvert une machine qui fait un peu vibrer les jambes pour m'aider à récupérer. Voilà, tout ce qui est naturel, hein, je précise, tout ce qui est naturel et qui peut m'aider à être performant et à récupérer, ben, j'ai tout mis en place. En plus de l'entraînement, la récupération est importante. J'ai été voir une diététicienne, sophrologue, on a dit psychologue du sport. Là, aujourd'hui, Pierre David, l'aspect psychologique, voilà, ce onglet-là, je le bosse. L'aspect récupération, je le bosse. L'aspect entraînement, dépassement de poids, je le bosse aussi. Enfin, j'essaie vraiment d'être à 300%. Comme je l'étais pour le marathon de Londres, hein, j'ai fait une énorme bascule parce que j'ai été plus qu'à 300%. J'essaie de mettre tout en place pour, tout cadrer. Et des fois, un peu trop, peut-être, mais c'est de la part de l'Aléa, c'est peut-être de la conséquence, mais je me suis blessé. Donc, pour la première fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un compte d'économie personnelle parce que c'est ce que j'ai dit l'année 2020 où j'ai laissé mon corps, l'année Covid et tout ça. Après Covid, tout le monde a commencé à un peu arrêter de me soutenir. Et j'ai cassé un compte personnel, bien j'ai sûr. Acheté un T-Card, j'ai acheté un Game Ready. C'est des outils que personne n'avait en Dordogne et qui sont conséquents. Face à l'investissement des 2 machines, j'ai eu de la chance d'avoir la société qui m'a fait une réduction. J'ai quand même lâché 12 000 euros d'un compte perso que j'ai explosé pour l'investissement pour des outils de récup que je n'utilise presque plus aujourd'hui. Au final, je les prête à mes potes qui sont blessés ou pas. À un moment donné, on parlait de la tente hypoxique pour recréer les sensations de l'altitude. J'ai acheté une tente 5000 euros il y a quelques années de ça. J'ai dormi 5 jours dedans. J'ai trouvé ça tellement pas naturel que je l'ai mise de côté direct. On me conseille des choses. Ben, j'essaie d'être orienté du mieux et d'investir s'il faut sur ces choses-là. Finalement, j'ai investi 12 000 euros en 2021 pour ne pas aller au jeu, perdre tous mes sponsors. Je peux dire que c'est un loupé. Mais dans cette démarche-là, ma femme, qui est un élément important de ma vie et de ma carrière, m'a soutenu. Quand il a fallu appeler la banque pour débloquer le compte, elle m'a pas dit non, c'est de nos économies, etc. Non, c'était vas-y, fais-le. Si ça peut t'aider à aller au jeu, on le fait, on tente le truc, quoi. Après, c'était l'économie, c'est pour les études des enfants. Enfin, je sais pas pourquoi c'était prévu, mais voilà, ça fait, c'est pas évident. Mais bon, quand t'es soutenu et que tu mets tout en place, bah, ton entourage est primordial et ma femme a été là dans ce moment-là et c'est ce qui m'a aussi reconstruit sur cette année 2022 qui a été une belle année. Même si le marathon est loupé, il y a quand même de belles performances et du coup, je pense que ça commence à bien revenir. Et c'est pas fini, j'espère, pour la suite.
Bah, bien sûr que non, c'est pas fini, mais en tout cas, ce que j'entends, tu vois, dans tes paroles, c'est au-delà de, tu vois, des chiffres et du nom des machines que dans lesquelles t'as investi pour accompagner ta performance. Moi, ce que j'entends, c'est un vrai passionné de la performance en général et qui va s'intéresser au plus profond de ce que chaque discipline peut lui apporter et de ce que chaque nouvel outil peut lui apporter. Et c'est ça qui est vraiment, tu vois, passionnant, je trouve, avec toi. C'est quand on te suit un peu sur les réseaux, c'est de sentir à quel point t'aimes ça, à quel point t'es curieux et tu fais pas les choses bêtement, quoi. En fait, tu t'es construit, t'as construit toute ton équipe tout seul avec ton matériel tout seul et enfin, je trouve ça hyper inspirant, en tout cas. Merci. Tu vois, il y a un vrai côté entrepreneur du sport qui va chercher par lui-même les bonnes ressources au bon endroit et effectivement qui prend des risques, qui investit et tout. Donc, je te conseille de monter une boîte. Si
on va voir.
De courir. Même si.
J'ai pas l'esprit business. L'esprit business, il est trop humain. Je suis trop dans l'humain. Il faudrait que j'arrive à détacher cette partie-là pour avoir l'esprit business plus réduit. Parce que j'ai eu quelques trucs où j'ai commencé à m'avancer. Genre où j'avais commencé à créer des casquettes, des choses comme ça, mais j'en ai plus offert que j'en ai fait payer. Le business n'était pas bon. Mais ouais, c'est encore une fois, c'est une ligne de conduite que j'aurai peut-être par la suite, mais pour le moment, je pense encore à ma carrière et après tout, on verra ça. Mais pour le moment, ouais, l'esprit business, je sais que c'est important dans la vie, mais c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est encore plus la performance.
Je voulais en profiter pour parler d'un sujet parce que t'as mentionné plusieurs fois ta femme et tes enfants. Tu vois, en regardant quelques vidéos sur ta chaîne YouTube, et on voit qu'ils sont hyper présents avec toi, qui jouent un rôle prépondérant dans ton bonheur. Tu l'as dit aussi au début, toi, le jour où tu t'es mis en couple, tu t'es donné à 100% dans ton couple. On dit souvent que derrière chaque grand homme ou chaque grande femme, il y a un grand homme ou une grande femme. Là, aujourd'hui, elle est à 100%, elle te rejoint à 100% dans ton projet. Est-ce que tu aurais pu atteindre des résultats aussi hauts sans quelqu'un qui était aussi impliqué? Moi, c'est une question que je me pose. À quel point, en fait, l'entourage est hyper important, quoi, dans ces moments-là? Parce que j'imagine qu'il y a eu des moments durs. J'imagine qu'à Londres, ça a dû pas être évident. Et puis, on le voit tout de suite après, c'est tes enfants qui t'apportent du réconfort. Toi, qu'est-ce qui t'apporte, tu vois, et à quel moment tu penses à eux, et à quel moment, en fait, ils te ressourcent et tu les utilises pour progresser ou au contraire pour pas flancher?
On s'est créé avec ma femme une vie qui est assez atypique, qui est la mienne aujourd'hui. Et j'ai une phrase de Mehdi Bala qui m'avait marqué au début de ma carrière et qui m'avait dit, moi j'ai ma fille, elle avait 5 ans, 6 ans. Finalement, j'ai eu beaucoup de stages à l'étranger ou autre. J'ai eu quelques années, en gros, où je regrette cet investissement qui a été conséquent, même si les performances ont été plus que présentes avec sa belle carrière. Mais ça m'avait marqué parce que je me suis dit, OK, c'est super chouette. Il a les médailles mondiaux, aux Europes, etc. Et l'un des plus beaux palmarès français en demi-fond. Mais à côté de ça, l'humain est peut-être un peu touché par rapport à tout cet investissement qu'il a pu mettre en place. Donc moi, j'avais envie d'être performant, mais pas priver ma vie de famille, être privé de tout ça. Alors, je rate énormément de mariages, d'anniversaires, etc. Mon confort, c'est ma femme et mes enfants. Et là-dessus, on s'est construit quelque chose d'assez grand. J'ai eu la chance d'avoir des contrats depuis tout jeune assez réguliers. Je crois qu'on a fait le compte sur mes 46 sélections en équipe de France. Donc, j'en ai plusieurs qui sont faites chez les jeunes. Donc, elle est encore à l'école et tout. Donc,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Elle pouvait pas venir. Et depuis, je crois qu'elle est venue 24 fois sur les championnats. Donc, quasiment, ouais, bah, plus que 50% de sélection, elle était là. Ça tombe qu'il y a de la Rio, il y a de la Russie, il y a de la Chine à devenir, mais elle était enceinte, elle n'a pas pu venir à Pékin. Mais elle a tout fait. Enfin, tous les championnats, elle est venue, quoi, en fait. Là, elle était à Londres, elle était à Munich. Donc, c'est un truc, elle est même venue faire des Coupes d'Europe en Pologne. Donc, il y a des trucs assez, dans des trucs assez perdus. Elle était là. Enfin, souvent, voilà, c'est quelque chose d'assez conséquent.
Dans les destinations qui font pas rêver, quoi.
Ouais, voilà, c'est pas que pour du balnéaire. Bon, quand ils sont venus à Rio, ok, ils se sont fait plaisir avec mon beau-père, ma mère, ma belle-sœur, ils ont été à Copacabana, etc. Mais voilà, toutes les destinations ne sont pas comme celle-ci. Et voilà, quand tu es dans le stade, ils viennent me voir au village olympique et c'est des heures et des heures de contrôle, ben c'est pareil, c'est la famille, elle supporte pas ça, c'est assez compliqué. Donc non, on s'est construit une vie en mettant, voilà, une part des gains financiers que j'ai pu avoir grâce à la clé, parce que je veux pas mentir en disant que j'ai fait un SDF de la clé, j'ai eu la chance d'avoir une carrière assez longue, propre, j'ai pas eu des mille et des cents, mais je me suis construit une belle image en Dordogne aussi, donc des sponsors locaux qui m'ont toujours soutenu, c'est une belle histoire. Du coup, sponsor local, sponsor national, fédération, j'ai toujours pu, comme je le disais, aller m'entraîner où je le souhaitais, et après investir un peu de d'argent perso, pour que ma femme vienne sur ses moments, sur ses stages. Elle a fait des stages en Afrique du Sud avec ma Yéline ici, où elle faisait des footings avec nous. Enfin, voilà, elle a souvent été présente depuis le début. Et ça, c'est une force. C'est clair que sans cette force-là, sans ce soutien-là, on n'aurait pas eu ce niveau-là aujourd'hui, dans certains. Parce que, voilà, c'est aussi de la confiance. Quand t'es là un mois, en stage et qu'elle peut pas venir forcément tout le monde entier, tu croises des gens, tu croises du monde, des fois, t'es certains pénales, elle pouvait pas venir et tout. C'est aussi une relation de confiance parce que t'as ton conjoint qui est parti dans le monde, tant de temps. Quand tu fais tes compétitions et qu'à la soirée de clôture et que tu vas à la soirée de clôture, on peut aussi avoir une relation de confiance pour laisser quelqu'un partir comme ça en soirée. Comme tu disais tout à l'heure, j'aime pas les soirées, donc du coup, c'est pas très, très compliqué. Mais quand même, tu peux avoir une part de doute. Et je pense que ce qui nous forge aujourd'hui et ce qui fait qu'on est encore aussi amoureux qu'au premier jour, c'est qu'on n'est plus dans, on n'est pas dans une relation de consommable et qu'on échange énormément. Et finalement, on revient aux fondamentaux de la discussion. La discussion dans la vie, bah, tu poses des choses et tu parles. Quand elle a quitté sa boîte, là, pour sa boîte qui est mon sponsor, qui est le Crédit Agricole, hein. C'est un de mes gros partenaires et elle a quitté le Crédit Agricole pour tout tenter. Alors que le Crédit Agricole, c'est quand même une sécurité de vie et une sécurité financière qui est conséquente. Là, elle quitte le Crédit Agricole pour gérer mes réseaux sociaux. Enfin, franchement, le risque, il dit ça à 99% des gens, ils disent waouh, n'importe quoi. Ça, c'est des discussions qu'on a eues en amont. On a beaucoup échangé, beaucoup parlé. Et je la soutiens dans son projet, comme elle a pu me soutenir tout au long de ma carrière. Et qu'elle me soutient encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est des échanges. Ça va pas forcément toujours être un long fleuve tranquille. Il y a des moments où ça va pas très bien, où ça fight un peu, mais on parle. Et aujourd'hui, c'est une belle leçon de vie, ça aussi, la discussion. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à casser des couples ou à plus parler pour des bêtises. Et aujourd'hui, voilà, les gens sont dans le consommable, dans des relations consommables. Et ça, c'est, enfin, moi, ça me fait beaucoup. Et enfin, ça me fait, je me rends compte que c'est triste aujourd'hui d'avoir de papillonner, entre guillemets. Et donc, je suis pas dans cette dynamique-là. Donc, voilà, on est énormément dans l'échange. Et vraiment, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sans cet investissement qu'elle a au quotidien, dans ce cas, je serais pas là aujourd'hui. Et mes enfants, je leur apporte, enfin, ils m'apportent énormément. Enfin, pareil, pour relativiser, pour être conscient des choses. Et à la fois pour leur montrer qu'on n'abandonne pas, qu'on va passer à la Coupe d'Europe de 10 000. Je suis pas un énorme point de côté, mais je termine à l'agonie. Ma fille a dit qu'elle pleurait dans les tribunes quand ils ont donné le coup de pétard parce qu'elle avait peur que j'ai un point de côté. Et que j'abandonne la course ou pas le dernier, je veux pas que je sois le dernier. Enfin voilà, tu vois, ils sont autant investis, alors que j'ai pas envie qu'ils soient autant investis que je le suis dans la clé. J'espère qu'ils feront autre chose. S'ils veulent faire de la clé, bien sûr qu'ils en font. Mais voilà, c'est une force d'avoir ces enfants et d'essayer de leur éduquer un peu cette ligne de conduite, cette ligne de vie que je fais. Ben, c'est leur apprendre des choses, mais en tout en me donnant une énorme force. Quant à Londres, pareil, je termine ces derniers kilomètres en marchant, en m'arrêtant en toilette, en ayant des courbatures partout, des douleurs que jamais j'ai pu avoir en course à pied. Ben, si tu termines, c'est parce que voilà, tu sais que ta famille qui est là, qui est venue, qui a fait le déplacement et que tu ne peux pas te permettre d'abandonner, de lâcher alors que tu as tout mis en place pour ça et que tu es parti 3 mois fourmeux, que tu n'as pas vu tout pendant longtemps. Donc, non, c'est une force.
Ben écoute, félicitations à toute l'équipe et ben écoute, on passe un coucou à la petite famille parce que on sait à quel point c'est pas toujours évident, tu vois, de soutenir un sportif de haut niveau et là vous avez réussi à effectivement à communiquer, à créer aussi un projet de couple, un projet ensemble et à faire aligner vos objectifs, parce que je sais qu'aussi toi tu l'as suivi à Paris parce que elle faisait une formation.
Ah, bien.
Enfin, il y a des enjeux dans les deux sens, tu vois. T'as abordé un petit peu le sujet de Londres, effectivement. Donc là, c'était le 2 octobre, donc ça va faire 3 mois pile poil. Après, donc il y a eu le temps un peu de faire le bilan, de prendre un petit peu du recul. Moi, je l'ai vu, dis-moi si je me trompe, et je l'ai vu un peu comme peut-être une désillusion où tu t'es fixé un objectif hyper fort, où t'avais beaucoup de pression quand même. Des sponsors, toi aussi, je pense que tu étais hyper exigeant avec toi-même. À quoi tu penses en passant la ligne d'arrivée, ou tu es sur ces 5 derniers kilomètres, ouais, où tu souffres autant? Est-ce que l'idée quand même de te dire j'ai peut-être visé un peu trop gros, tu vois? Est-ce que l'idée elle peut traverser l'esprit, ou est-ce qu'au contraire tu fais partie des gens qui sont tout de suite endurcis et qui arrivent à rebondir tout de suite?
J'ai une préparation qui a été aux petits oignons, qui a été peaufinée, mais vraiment d'une belle manière. Mais qui était pour un coureur qui était aux alentours de 2-7-2-8. Sauf que sur un premier marathon, je n'avais pas ce niveau-là. Mais mes séances de piste, tout se passait à merveille. L'enchaînement s'est passé à merveille. Il n'y a eu aucun pépin public. Il y a eu 3 jours, il y a l'air tout mollet, mais ça s'est vite calmé. J'enchaînais des blocs vraiment monstrueux. Et avec une récupération optimale, bain froid, massage, enfin, tous les jours, j'étais vraiment dans les bottes. Enfin, j'ai vraiment, vraiment tout optimisé pour ce marathon-là. J'ai une préparation assez forte. Je me suis mis un objectif à 2h12, moins de 2h13, qui était réel et concret. Il faut savoir que la veille de la course, il y a l'anglais qui vient me voir et qui me dit « Écoute, moi, je pars sur 65-30. » Moi, je voulais faire 66. Il me dit « T'as le choix parce qu'il n'y a pas le groupe derrière, c'est 68. Donc, ça ne va pas être dans tes allures. Donc, moi, je t'annonce ça, je ne te force pas, tu fais ce que tu veux. » Du coup, je dis « 65-30, au lieu de ma prépa, franchement, je vais prendre ce groupe-là et cette option-là. » Donc, j'ai cette petite dynamique de partir un peu plus vite que prévu, mais sans avoir de stress, parce que je sais que ma préparation, elle était quand même ultra forte. Et que même 65-30, techniquement, voilà. Sauf qu'il s'avère qu'on passe 64-50, donc encore plus vite que prévu. Et très honnêtement, encore une fois, je te dis ce que je veux après coup, mais tu le vois sur les chronos de toute façon. Tu es vraiment dans une aisance, et là, je me dis, waouh, 64-50, c'est 65-0. Je craque un peu mon deuxième semi, je vais faire moins de 2h11 direct, parce que si je craque, on sait que le marathon, c'est dur, donc je risque de ralentir un petit peu à un moment donné. Je vais faire moins de 2h11, donc c'est bon, tu restes confiant. Quand je vois les splits après, parce qu'en direct, je m'en rends pas compte, entre le 20 et le 25, ça relance. Donc, je passe au semi sur 64-50, mais après, on va plus vite sur les 4 kilos qui suivent. Et ça, je le sens même pas. Donc, j'étais vraiment bien. Sauf qu'au 25e, je prends mon ravito, mais je me trompe, je prends le ravito de l'anglais. Et là, il me dit, Johan, it's my. Donc, je dis, mince, je lui donne son ravito. Par chance, j'ai eu de la chance parce que j'ai une énorme collaboration avec Kipren. Il m'avait fait un short avec, j'avais prévu des gels de secours. Ça tombe bien. Sauf que là, je sais pas ce que j'ai. Pourquoi je le prends si vite? Je le prends, je panique, je l'ouvre et là, je le mets d'un coup dans la bouche et j'avale d'un coup. Un peu trop sèchement, ça commence à développer le point de côté. Alors, je ne sais pas si c'est le gel qui a fait ça. Je pense que ça a pu être un élément qui me déclenche, parce que quand j'ai fait mon 10 000, j'ai eu un point de côté. Quand je fais mon semi ou je fais mon record 62-17 à Lille, le dernier kilomètre, j'ai un point de côté, mais c'est le dernier qui j'arrive à courir dessus. Franchement, ça a été un peu violent. L'anglais, il voit que je commence à être pas bien. Il me retend sa gourde. Il me dit, tiens, vas-y, prends ma gourde, je bois. Sauf que c'était une autre boisson que la mienne. C'est un truc à l'orange. Alors, j'étais au truc fruit rouge, plus le gel, ça fait un mélange. Bref, vraiment pas bien, et ça a pas loupé un kilomètre plus tard, le point de côté qui arrive, et là, la défaillance complète, j'essaie de m'arrêter, d'évacuer, de repartir. Et là, j'ai eu des douleurs qui ne sont jamais arrivées à l'entraînement. Mollet, quadri, ischio, fessier, bas du dos. J'ai jamais eu ça dans cette globalité-là. Alors, j'ai déjà fait des longues runs, des séances en intensité plus forte, qui arrivent, mal de ventre, diarrhée, obligé de m'arrêter aux toilettes. Enfin, vraiment, le chaos est complet. Et donc, je vais au bout parce que c'est le premier marathon. Comme je te dis, il y a une équipe qui prend, là, qui a mis en place un short prototype, une tenue prototype pour m'aider, une chaussure prototype pour être vraiment au top du top sur ce marathon. Ils sont venus là pour faire des images et tout aussi. On a une énorme amitié. Eux-mêmes n'ont pas mis de pression par rapport à ça. Comme je disais aux équipes avant, j'ai des fous furieux. J'ai tellement envie de réussir pour eux aussi. Je m'en suis mis tout seul. Mais eux-mêmes, franchement, quand je vois les messages d'avant, pendant la course, mais je n'ai pas eu en direct. Et après, ce n'était pas dans cette dynamique-là de me stresser ou de mettre l'objectif suprême direct, de faire un chrono, loin, loin de là. Mais je me souviens de l'objectif parce que, encore une fois, je suis dans l'humain et que pour eux, je me devais terminer aussi. Il y a ma famille qui est présente, il y a cette équipe qui est présente. Ils disent, c'est pas possible, tu n'abandonnes pas. Et on le voit dans la vidéo qu'ils ont tournée, d'ailleurs, qui est assez magnifique. C'est une belle vidéo que j'ai. Alors, finalement, c'est sur une super performance. Ma femme qui dit, carotté, mais il ne faut pas abandonner à 3 km de la fin. Enfin, mon GPS s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être quand tu es allé aux toilettes ou autre. Et du coup, il n'arrivait plus à me voir sur le tracé. Non, il pensait que j'avais arrêté, mais ma femme était quand même incertaine parce qu'elle dit, voilà, elle me connaît aussi. Et voilà, je suis allé au bout de moi-même et c'était là, le chaos complet. Enfin, à expliquer, c'est horrible. 32 au 40e, j'ai la voiture qui ramenait les élites qui avaient abandonné. Elle s'arrête quatre fois à côté de moi. Elle s'arrête quatre fois. Elle me dit, t'es sûr que tu veux pas que je te ramène à l'arrivée? On est là pour ça. C'était pas dans tes trucs. Enfin, voilà. Quatre fois, elle s'arrête à côté de moi. Et la quatrième fois, je t'avoue que t'as envie de monter dans le véhicule et de rejoindre la ligne d'arrivée. Donc, quand tu passes cette ligne d'arrivée, j'ai juste une envie, c'est de voir mes profs. Je sais que je la passe. Il y avait 200 ou 300 mètres pour aller à la tente d'après. C'est une voiturette de golf qui m'a ramené, j'étais KO, qui m'a ramené dans la tente élite. Et là, direct après, je suis sorti, j'ai écrit ma femme et j'ai voulu les voir. Et je sais pas, ça m'a redonné un petit gain d'énergie pour marcher. Et j'ai pu remarcher et tout. Et j'ai réussi à marcher la journée après dans Londres, alors que la fin de ma course, même en marchant, j'avais mal. Donc, ouais, je sais pas, ça a été la défaillance, désillusion, mais me donne pas d'excuses parce que j'ai 3 mois tellement professionnel que ça, je l'ai acquis, ça sera jamais perdu. Donc, cette valeur intrinsèque que j'ai pu maîtriser à l'entraînement, faire des 3000 à Fourmeux en 9 minutes en sans respirer, j'ai envie de dire, avec une minute de récup, bah, franchement, mon coach, il me disait, là, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de coureurs en France qui sont capables de faire ça. Mais les séances de piste, j'ai mon passif de pistard qui parle aussi. Et toutes les séances de piste, je les ai trouvées faciles. Enfin, c'est dur à dire, hein, mais je les ai trouvées faciles. J'ai fait un 10 000 à Fourmeux en 29-26. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun des marathoniens français qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et encore une fois, il y en a qui sont capables, mais la manière dont je l'ai fait dans le bloc de travail dans lequel je l'ai fait, en fait, mis les 400 derrière. Enfin, ouais, c'était peut-être trop par rapport à mon, enfin, par rapport à mes objectifs. Et du coup, je me suis auto-stimulé dans un gros truc. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça me déclenche le point de côté? Je peux pas le dire. Est-ce que c'est ce gel? Je peux pas le dire non plus. Il n'y a pas d'explication particulière. Mais en tout cas, ça a été, voilà, tout ça qui a fait que je finis ce marathon, je termine, voilà, la course. Faut savoir aussi que je te parlais du Crédit Agricole. Ils ont aussi payé pour faire venir un sparring partenaire du Kenya parce que je voulais être au petit soin pour cette préparation-là. Là, donc, mes 2 derniers mois de prépa avant Londres, j'avais un sparring partenaire pendant tous les jours à tous mes entraînements qui a vécu avec moi, en fait. Donc, vraiment, tout a été, calibré pour être performant. Et, bah, du coup, la contre-perte était, entre guillemets, inenvisageable. Elle est arrivée. Donc, elle était présente, mais je ne me voyais pas abandonner. Donc, voilà. Donc, j'ai passé la ligne d'arrivée. C'est de trop gros objectifs, etc. C'est pas ça qui m'a pris en priorité la tête, hein, qui m'a travaillé. Par contre, après la course, j'ai dit j'en referai pas pendant 1 ou 2 jours. Et après, ben voilà, je suis un mordu, je suis un passionné. Je peux pas m'arrêter à ça. Je peux pas m'arrêter à 2h28. C'est pas possible. Ouais. Je suis un chrono de femme. Là, mon machisme, l'humeur, enfin voilà, ça me prend trop les tripes pour dire je vais rester sur cette contre-perte là. Alors voilà, on va repartir dans l'optique de faire un prochain marathon sur des bases beaucoup moins élevées, avec mon lièvre cette fois-ci, j'espère qu'il pourra être présent et m'amener sur les bases que je souhaite moi, vraiment maîtriser un peu plus le scénario de course, et peut-être pas louper mon ravito, j'en sais rien. Et encore une fois, c'est peut-être une grosse excuse qui n'est pas valable, mais c'était ça qui... C'est à partir de ce moment-là que j'ai le point de côté. Donc on verra, l'avenir nous le dira. En attendant, je lâche rien et je repars, voilà, de plus belle, motivé. J'ai plus venu 6 semaines au Kenya et je reviens peut-être un mois encore en février. Donc ça annonce une belle préparation en tout cas. C'est que je me redonne les moyens de continuer, d'être performant, d'être en élite et d'avoir des objectifs conséquents pour cette année.
Bon, écoute, tu viens de, je pense, de flatter tous les coureurs en entendant que toi aussi tu avais mal aux jambes après un marathon. Donc, on se dit qu'on n'est pas seul et que même les pros aussi, quand ils découvrent la distance, l'ont aussi. Franchement, je te comprends 1000 fois parce que en t'entendant, en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est un fait de course et qui est peut-être dû peut-être à un manque d'expérience aussi un peu sur la distance. Tu vois, le fait de s'alimenter sur une distance, c'est de l'expérience qui doit rentrer et que je pense que n'importe quel coureur sur marathon connaît un peu, tu vois, la gestion de l'alimentation, c'est un truc qui s'acquiert que malheureusement qu'avec le temps. On sait que toi tu l'acquiras beaucoup plus vite que les autres. Moi je me fais pas de soucis pour toi, mais c'est vrai que ouais, je comprends que ça soit un petit peu rageant. Tu m'as fait une transition un peu pour la dernière partie que je voulais aborder et puis après je vais te laisser aller te rentraîner ou aller récupérer. Tu as parlé du Kenya, du fait que tu avais un sparring partner kényan que tu aimes bien faire venir sur tes courses, avec qui tu as l'habitude de t'entraîner, que tu connais par cœur. J'ai cru comprendre en faisant mes recherches que c'était un pays, plus quand je t'ai eu au téléphone, qui toi te prend au trip. Il se passe un truc là-bas. On vous entend tous dire ça. On entendait Bob Tari dire ça, on entendait Mehdi Bala dire ça, on entendait Julien Vanders aussi, plus jeune. Donc on sent qu'il se passe un truc. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Peut-être que j'y suis jamais allé. Je suis allé en Afrique. Je suis allé plusieurs fois en Afrique. Je connais un petit peu. Qu'est-ce que tu ressens, toi, là-bas, quand tu y vas? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour que ça te donne des ailes? J'encourage d'ailleurs tous les auditeurs à la regarder sur ta chaîne YouTube. Il y a des super vidéos de vlogs où on te voit dans l'immersion et ça vaut de l'or pour ces images. Donc, merci infiniment. Ça, c'est vraiment cool et bravo pour le boulot. Bravo pour l'investissement parce que c'est encore une charge de travail en plus. Mais dis-moi tout. On va essayer de rentrer un petit peu dans le sujet. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu arrives là-bas?
En fait, faut savoir déjà pourquoi le Kenya. Alors, en 2009 à Berlin, mes premiers championnats du monde, on en parlait tout à l'heure. En série du 15, je me fais sortir en série du 1500. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Bob Tari qui fait sa médaille 2009 sur Final Net aussi, qui fait 3e. Et Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il y a son reportage intérieur sport qui sort en 2009 et 2008. Il est au plateau du Kenya, les meilleurs coureurs du monde, etc. Ben, forcément, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Hein, tu veux t'inspirer des meilleurs pour devenir le meilleur? Tu veux découvrir par toi-même? Donc, 2009, je prends mon sac, je vais pour la première fois au Kenya, faire de l'humanitaire dans un premier temps avec ma femme. Je ne vais pas en lieu de stage, je fais 15 jours, je regarde un peu comment ça se passe. Et ça me motive.
Pourquoi ce choix de faire de l'humanitaire en premier?
Ben parce qu'en fait, j'étais parrain d'une association Fungana pour venir en aide aux enfants du Kenya. Et du coup, ben, l'aspect d'aller voir cette destination et en parallèle faire une OP humanitaire, c'était quelque chose qui, encore une fois, qui revient à l'humain et qui me marque et qui me plaît beaucoup. Et on a vécu des moments juste incroyables. Et donc, je me suis dit, bingo, je repars. C'était en 2008-2009 ou 2009-2010. Et je me suis dit, bingo, quelques mois plus tard, je reprends mon sac à dos et je pars là-bas m'entraîner. Et donc, je suis venu ici un peu en solitaire avec mon sac à dos à Iten. Il n'y avait pas beaucoup de blancs. Il n'y avait franchement pas grand monde qui venait encore à l'époque. Je découvre quoi sur certains footings? Je sais que je vais au stade de Chepkoilet dans une voiture où on est tous à l'arrière avec mon sparring qui est encore aujourd'hui. Il y a une espèce de pick-up ouvert. On est tous ensemble là. Et je suis dans ce pick-up et je fais plein de séances. Et là, j'ai encore des photos où je suis avec Mary Ketani, qui est plusieurs fois vainqueur du marathon de Londres, 2h16 de 300 marathon. Donc, une des meilleures marathoniennes de l'histoire. Je pense qu'elle est même comparable à Kipchoge en termes de niveau que j'ai par rapport aux hommes. Donc, une grande championne, mais qui était très simple. Je me souviens d'un footing aussi où tu es avec un Kenyan et on était avec Sophie Duarte qui était venue, mais c'était plus tard, quelques années plus tard. Et que elle, ça allait trop lentement, elle accélère. Et là, le Kenyan rigole. Et je parle avec lui, je dis qu'est-ce que tu fais comme performance et tout. Il faisait 26 et quelques. Enfin, c'était à l'époque le 3 ou 4e performant mondial de tous les temps sur le 10 000 mètres. Il était habillé d'une tenue hyper simple. Tout ça pour dire qu'en gros, j'ai découvert quoi? J'ai découvert 2400 mètres d'altitude, des parcours très exigeants. À l'époque, c'était vraiment que de la terre rouge. Il n'y avait pas de cailloux ni de route comme il y a aujourd'hui. Et des groupes de très haut niveau, accessibles avec une humilité, mais hyper humaine en fait. Et du coup, ça, encore une fois, l'aspect humain va plus qu'apporter. Et du coup, de s'entraîner avec ce garçon qui fait 26 et quelques au 10 000 et qui est hyper simple et qui rigole de Sophie Duarte qui accélère, de pouvoir revenir faire une séance avec lui, voilà, sans être dans un cercle privé ou fermé pour accéder à ces séances et ces lignes d'entraînement, ben ça m'a toujours parlé en fait. Cette simplicité de voir Chahine sur la piste et après qu'il est au restaurant de l'hôtel, pareil, en toute humilité, en toute simplicité, voilà, très convivial. David Rudichak, je crois, sur une séance de piste, quelques années plus tard, mais bon. Je crois sur une séance de piste ici, la piste en terre, il faisait des 335-36 secondes incroyables. Je repars à mon hôtel en marchant et là, il s'arrête à côté de moi en voiture. Il me dit, mais tu vas vers où? Je lui dis, curieux, il me dit, bah, pique, c'est ma route, je t'emmène si tu veux. Parce qu'on a un footballeur ou quelqu'un qui a son niveau, qui est recordman du monde, champion olympique, qui te propose de te ramener en voiture sans que tu ne demandes rien. Enfin, ça montre l'état d'esprit des gens. Et encore un élément qui m'a marqué, mais ça, c'était sur mon toute première fois, il est un de mes tout premiers footings. Il y a deux choses. Le premier, je me pointe à l'entrée de l'hôtel et là, il y a le gardien de l'hôtel qui dit, ah, tu fais un footing et tout. Je dis, ouais, mais vas-y, si tu veux, je te montre un parcours, etc. Je dis, bah, tu veux, mais tu débosses. Il dit, bah, là, j'ai fini. Et là, il enlève son bleu de travail et hop, il est en short. Il avait un short et un débardeur. Il va faire un footing avec moi. Et je dis, bah, tu fais quoi? Et tu me dis, moi, je suis juste comme ça pour te plaisir. Et tout, je m'entraîne juste comme ça occasionnellement. Je lui dis, t'as déjà fait des courses et tout. Je dis, oui, j'ai fait 2h18 au marathon d'Aérovie. Enfin, pour lui, voilà, je vais pas dire un gros mot, mais. Pour lui, c'est un coureur lambda, voilà, j'ai ça comme ça, 2h18, on a très simple encore une fois. Donc, école d'humilité par excellence. Et un petit jeune qui s'appelait Kemboy, sur un premier run aussi, qui m'accompagne avec des sandalettes, si on peut dire, l'espace de 2-3 bornes, et qui s'arrête devant une maison traditionnelle, là, en bouche de vache avec le toit de paille, qui avait rien du tout, et que là, il me dit, ah, tu veux venir boire un thé, boire et manger quelques biscuits chez moi. Et ben ça, c'est un truc que je me rappelle, j'ai noté dans mon petit carnet et je m'en souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier parce qu'il avait rien, il était à peine voilà, des fringues très basiques, pas de chaussures, et qui propose de venir boire le thé chez lui. Donc, c'était quelque chose qui m'a assez marqué. Donc, voilà, l'état d'esprit des gens associé à, voilà, à cette altitude, à ce dénivelé, à ces groupes d'entraînement accessibles, tout ça fait que je reviens d'année en année au Kenya et que voilà, maintenant, il y a énormément de monde. Hein. C'est devenu d'ailleurs un business pour certains. Enfin, le Kenya, c'est une terre d'accueil du sport de haut niveau de manière générale, ou professionnel ou même amateur. Il y a beaucoup de monde qui vient découvrir ça. Et c'est ce que je dis, j'entraîne en ce moment Amélie Mauresmo sur marathon. Et je dis, quand tu viens ici, il faut que tu viennes voir ça. C'est quand même une expérience de vie assez atypique. C'est pas évident à caler dans un programme, mais tout coureur, et ce, quel que soit son niveau, c'est quand même à vivre une fois dans sa vie. De voir une piste en terre rouge avec, là, c'est un petit peu moins maintenant parce qu'il y a plus de groupes qui sont un peu dissous. Mais à l'époque, j'ai déjà vu l'anneau de 400 mètres rempli de coureurs tout autour, tellement il y avait de monde, et encore de ça, du monde à l'extérieur. C'était incroyable. Et puis, j'ai des souvenirs d'ici, de, voilà, le berceau de l'athlétisme mondial par excellence. C'est vrai que c'est pas mon fierté de dire ça.
Tu nous transmets plein d'émotions, tu vois. Et c'est vrai que moi, tu me fais vibrer et tu me donnes vraiment envie d'y aller, tu vois. De voir, effectivement, tous ces coureurs qui s'entraînent quasiment tous. Enfin, maintenant, comme tu l'as dit, ça a un peu changé, mais qui s'entraînaient tous sur la même piste, qui étaient tous ensemble et qui avaient toutes les meilleures pertes sur toutes les distances. Quand t'es un passionné de sport, tu peux pas rester insensible à ça et t'as forcément envie de le vivre, t'as forcément envie de le sentir. Tu vois, t'as mentionné beaucoup la jovialité des gens, leur accessibilité, leur simplicité. J'imagine que t'es comme un poisson dans l'eau parce que t'es un peu comme ça, tu vas vers les gens, t'es souriant, t'es généreux, t'es un peu bavard, on sent que t'as le contact facile. Est-ce que tout le monde peut être accepté, en fait? C'est ça un peu la question. Tu vois, est-ce que le comportement de blanc, je suis plus fort que tous les autres, qui a un peu envie de s'imposer, qui est pas forcément très humble, est-ce que il sera aussi bien reçu? Il se mettra aussi, tu vois, c'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Maintenant, si c'est un business, c'est que c'est différent, mais est-ce qu'il y a aussi des codes que toi, tu dois venir et que tu dois respecter?
Tu respectes les allures, tu respectes les choses, mais de toute façon, tu peux être un blanc qui se la pète et venir là, tu vas vite te faire rappeler à l'ordre par leur niveau. J'ai eu un souvenir d'un footing où on a voulu accélérer, allumer avec Hassan Chani. On a accéléré, on a allumé jusqu'à ce qu'ils nous fassent tous sauter. Ils ont fait sauter Hassan et moi. Ils sont arrêtés 200 mètres plus loin ou 300 mètres plus loin. Ils sont venus nous chercher. On a terminé ensemble. Et voilà, c'est pour nous montrer qu'ils étaient quand même plus forts et qu'on fallait pas qu'on passe les marioles. Et encore pas plus tard qu'hier, je fais un footing. Bon, c'était beaucoup plus long que prévu, mais j'ai une fille qui m'a explosé. Enfin voilà, quand t'es ici au Kenya, t'es chez eux et le dénivelé rend les parcours vraiment beaucoup plus difficiles. Si tu vas avec un groupe, c'est pour t'adapter à ce groupe, toi, et pas l'inverse. T'es pas là pour imposer ton truc. Et ils ont plus à nous apprendre qu'on a à leur apprendre sur pas mal de choses. Donc encore une fois, quand tu es dans un pays, c'est pour respecter sa culture et ses traditions. Soit quelqu'un qui te la pète ou quelqu'un qui soit très gentil, très humble. Je pense que tu as quand même énormément à apprendre ici. Et justement, si tu te la pètes, tu vas peut-être repartir un peu plus humble que quand tu es arrivé. Donc, c'est peut-être aussi une belle école de vie, une belle leçon de vie que de venir ici. Donc, ça fera du bien à beaucoup de personnes, quel que soit le profil. Il dit souvent welcome, hein, de toute façon. Il leur dit, je peux venir avec vous. Ah oui, you welcome. Enfin, il n'y a pas de souci. T'es le bienvenu pour faire les séances, pour faire les footings, pour tout. Et ce, dans n'importe quel groupe, là, il y a des groupes qui commencent à se créer par team. Tu vois, il y a le team, on ne peut pas accepter les marques, voilà, Asics, Adidas, etc. Et je suis Keep Run. Et puis, la dernière fois, j'ai rejoint Megdes, qui est là, qui est la récente record woman de France du premier marathon, m'a fait venir dans son groupe, et Asics, et là, je dis, ah, maintenant, c'est notre marque, etc., on t'en fout. Enfin, ça, c'est secondaire. Voilà, on arrive quand même à être accepté partout, et c'est encore aujourd'hui, ça, c'est cool. C'est la simplicité par excellence. Franchement, c'est, il y a Bob, je ne sais pas si tu as vu dans son intérieur sport, qui dit une phrase aussi où, c'est concret, où il y a un mec qui sort de son garage, qui ferme le rideau, qui a une mallette, il est en bleu de cravat et ou en costume, je sais plus, en chaussure de ville, et il suit pendant 2-3 bornes. Mais ça, c'est vrai. Les enfants ou les gens qui te suivent pendant des bornes et qui sont, pas sportifs professionnels ou autres, c'est incroyable. Il y a une culture par rapport à l'athlétisme qui est grande ici. Les gens sur le bord de la route te saluent quand tu cours. Enfin, c'est un autre état d'esprit. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux sortir de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures, tu croises du monde qui s'entraîne. C'est plutôt matinal ou plutôt grasse mat,
et j'imagine que déjà quand t'es européen ou occidental, si tu fais déjà l'effort d'aller jusque là-bas pour t'entraîner, c'est que déjà psychologiquement t'es déjà quelqu'un d'assez ouvert, ouais. Et tu vois, et que t'es prêt à te plier aux conditions et que t'as un peu été briefé aussi sur comment les choses se passent, comment elles sont ouvertes.
Ou sinon tu t'entraînes t'entraînes tout seul. Il y en a qui le font aussi, ils viennent ici, qui sont pas en immersion dans le pays. Mais ça m'a bien plu parce que l'an dernier, j'ai vu, bon, malheureusement, il a pas fait de saison par la suite, mais j'ai vu Mayedine qui a une carrière, qui est celle qu'il a aujourd'hui avec 3 médailles olympiques, et qui, du coup, dans sa carrière, n'a jamais fait de stage comme ça ici au Kenya où il s'est mis en immersion et tout ça dans les groupes. Et là, je le voyais, justement, j'ai écrit à son coach et son manager. J'étais agréablement surpris de le voir se pointer sur les parklecks, et ça, c'est pareil, c'est une espèce d'école d'humilité. Les médailles olympiques, et tu pointes sur le parklecks, et je suis sûr qu'il a subi parce qu'il était en reprise, il a dû morfler, mais il y est retourné plusieurs fois, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça hyper beau comme message parce que voilà, t'as beau être médaillé olympique, tu souffres comme tout le monde à l'entraînement pour revenir et pour essayer d'être de meilleur à niveau. Et de te mettre en immersion comme ça avec des mecs qui tartinent moins, mais qui coupent, parce qu'il faut savoir aussi que sur les partenaires qui partent à 80 ou à 100, il y a une bifurcation à la moitié du parcours, et à la moitié des gars qui mettent le clignotant, mais ça, on ne le dit pas. Et du coup, ça, c'est aussi une belle, une belle petite paille qu'il faut savoir. Mais bon, tu pars centième du truc, tu finis à 50, mais voilà, le niveau est conséquent, il y en a 50 qui ont fait un petit clignotant à la mi-course, mais bon, franchement, c'est un beau petit truc. Les gens tentent ici, les gens tentent énormément. Voilà, de se surpasser, ouais. Et des fois un peu trop. Ils attaquent les partenaires, les séances, d'une manière, c'est assez, moi j'en rigole aussi, parce que tu connais un peu le niveau et tu sais gérer, et t'envoies des fois partir. Tu sais que lui ou un tel, celui-là, il va finir pas la séance. C'est aussi le charme du pays, c'est qu'ils tentent le truc pour s'en sortir, et quand on les croise sur les compétitions locales, il y a aussi des belles découvertes, parce qu'il y en a qui tentent et pour lesquels ça passe.
Ouais, et du coup, j'ai l'impression que presque n'importe qui peut venir, quoi. Vous avez un point de rendez-vous, t'es en train de le dire, ça change avec des groupes qui sont en train un peu de s'éclater, mais sinon, avant, il y avait un point de rendez-vous pour tout le monde et c'était parti, quoi.
Oui, il y a encore des points. Il y a des points aujourd'hui de marques et de groupes un peu, j'ai envie de dire, plus fermés, même si c'est pas vraiment fermé. Et t'as les points de public qui sont vraiment encore là, les gros groupes de 100 coureurs qu'on voit. Parce que les marques, c'est des groupes de 20, 30 maximum. Les gros groupes de 100, 120 personnes, c'est des points publics accessibles à tous, quel que soit le niveau. Voilà, et moi, quand ma femme est venue avec mes enfants, mon beau-père, ils ont même une voiture qui a suivi le groupe et qui filmait. On a eu des images pas possibles, hein, c'était incroyable. Même rien qu'à voir, c'était un spectacle. Toi. Donc, tu peux venir en famille, leur faire faire un truc et vivre une expérience assez unique. Tu t'entraînes, tu subis avec le groupe. Eux, ils filment, ils sont sur le bas-côté, et du coup, c'est cool. Enfin, tu peux vraiment faire des trucs chouettes, les gars.
Bon, bah écoute, si je vais faire un tour là-bas, tu m'enverras le point GPS pour aller démarrer. Moi, je prendrai mon vélo, hein, je pense. Il n'y a pas de mal à ça, mais je prendrai de super jolies images, en tout cas. Ben écoute, franchement, je me suis régalé. J'ai fait tout le tour des questions. Ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Ah, si j'en ai peut-être une dernière que je voulais te poser, c'est en dehors du sport au Kenya. Qu'est-ce qui te fait plaisir quand tu y retournes? Je sais pas, que ce soit un plat, une odeur, un fou rire, un truc. qu'est-ce qui te manque le plus quand tu y es pas et qu'est-ce que tu aimes retrouver?
En fait, ce qui me fait plaisir, ce que j'aime beaucoup quand je viens ici, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis entré dans un peu la société de surconsommation et de l'extravagance, d'avoir le dernier téléphone, d'avoir la dernière voiture, d'avoir un peu, voilà, donc consommable, pas forcément utile. Et à chaque fois que je viens au Kenya, moi, ce consommable-là, et quand tu reviens en France, l'espace de 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, t'es plus dans cette dynamique-là d'avoir forcément des fringues de marque. Et direct après, par contre, t'es matrixé, ça revient à puissance 10. T'as tellement de publicité en France et tellement d'informations dans cet état d'esprit-là qui te font, enfin, moi qui me font craquer, en tout cas, je suis vraiment, c'est pour ça que ça me fait du bien. Ça me ramène vraiment à l'humain et au basique. Et quand tu repars, ça, tu gardes un petit peu de temps. Donc ça, j'adore. Et quand tu viens ici, ouais, c'est quelque chose qui me marque forcément. L'autre point, après, je communique pas trop là-dessus. Voilà, ça fait un peu peut-être longtemps qu'il m'est d'en parler. C'est que j'ai souvent des actions humanitaires en off. En fait, je communique rien sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que je viens, j'ai tout le temps une deuxième valise qui est remplie de fringues, de batteries externes, enfin, de tout un tas de choses, de crayons, pour les enfants ou pour les plus jeunes ou moins jeunes. Et c'est tout le temps des choses. Là, j'ai fait moi en perso et j'ai fait participer mes enfants plus la classe de ma grande fille qui ont eux-mêmes donné aussi des choses pour les faire un peu investir dans le projet. Et on allait distribuer ça un peu en off, sans faire de caméra, de photos ou quoi. Juste des photos pour la classe de ma fille qui leur montrera parce qu'ils voient, ils ont joué le jeu en France. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup cet aspect-là de pouvoir aussi partager un petit peu des effets, ce que je peux avoir. Des choses qui sont finalement basiques en France et qui peuvent être fortes pour le Kenya. Regarde, là, j'ai acheté ça à mes enfants pour jouer ici. Un cerf-volant, j'ai acheté ça à 2 €. Il est encore là. Et ma fille et mon fils ont joué pendant des heures avec plein de petits-enfants kenyans. Et là, j'attends un petit peu la fin parce que c'est pareil, c'est difficile de les distribuer. Mais je sais que je vais faire un petit heureux et je vais donner ça à un enfant qui va jouer des heures et des heures avec. Et c'est tout un tas de petites choses additionnées qui font que voilà, j'aime bien redonner un petit peu au pays par rapport à tout ce qu'il peut m'apporter humainement parlant. Ben voilà, d'avoir un petit retour. Et encore une fois, je te le dis là parce que tu me demandes, mais tu ne verras pas de communication ni de publication sur les réseaux par rapport à ça.
Bon bah écoute, merci beaucoup de me partager ça et tu vois d'intuition je l'aurais suggéré moi-même, tu vois, que tu avais ce grand pas très généreux et bravo à toi en tout cas parce que tout le monde ne le fait pas et c'est vrai que ça coûte pas grand-chose de ramener une trentaine de t-shirts et quelques slips et des paires de chaussures qui sont pas trop défoncées et ça fait beaucoup d'heureux là-bas donc bien joué, bravo à toi et je trouve c'est très louable de le faire. J'ai deux petites questions pour la fin avant de clôturer mes échanges. La première, c'est un peu pour savoir au niveau des films et des livres, ce que toi, les livres qui t'ont peut-être inspiré ou les films également. Alors, j'ai cru comprendre que t'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'ai cru comprendre que t'aimais bien les dessins animés aussi un peu plus jeune. Je tairai quelques rumeurs sur tes dessins animés préférés quand tu étais jeune. Est-ce que, je sais pas, t'as une lecture à nous partager ou un film, un livre que t'as vu récemment et qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a aidé à être un meilleur humain et un meilleur athlète?
J'aime bien le livre qui est romancé, Ta deuxième vie commence quand ton compte n'en a qu'une. Je dis pas de bêtises.
Okay.
Je sais plus, Grimaldi, je suis pas sûr que c'est elle. En gros, c'est de la philosophie romancée. Et du coup, c'est une belle histoire qui est bien romancée pour le coup. Mais qui te fait prendre conscience de pas mal de choses sur le développement personnel en étant du coup dans une belle histoire. Avec Laurent Gounel aussi. J'aime bien les livres de Laurent Gounel. Je dis souvent philosophie pour les nuls. c'est peut-être méchant de dire ça de lui, mais c'est du coup, tu lis une belle histoire et ça se fait pas mal remettre en question. À côté de ça, un film, je veux dire, une pure bêtise. J'ai regardé des heures et des heures avec mon groupe d'entraînement quand j'étais jeune. Le film avec Alain Chabat et toute la troupe, c'est complètement ridicule, mais ça m'arrivait de le regarder, de manger, de le regarder une deuxième fois d'affilée. Je connais les répliques, mais par cœur. Et ça, la Tour Montparnasse infernale, les films un peu fous et complètement, j'ai envie de dire débiles, ça fait partie de ma bibliothèque de films un peu que j'ai regardé beaucoup de fois et qui me font rigoler encore aujourd'hui.
Oh bah écoute, merci pour les deux recos. Il y a du sérieux, du spirituel et un petit peu de contenu pour se ranger le cerveau et bien rigoler. Et écoute, j'encourage les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui à te faire une petite remarque d'Alain Chabat si jamais ils te croisent et on verra si tu auras la réplique. La toute dernière question que je pose, un petit peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Quels sont les athlètes francophones que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler critères de la performance, pour parler bonheur, alignement, pour parler Kenya, voyage, tout ce qu'on veut, humanitaire, tout ce qui ferait plaisir. Quels sont les athlètes hommes et femmes qui t'inspirent et que tu me recommandes d'aller voir? Et je sais que tu as plein de copains et que dans l'athlète, tout le monde t'adore. Alors.
Ah non, tout le monde m'adore, je sais pas, mais en fait, c'est hyper simple. J'ai un groupe d'amis, on a eu un beau reportage d'ailleurs dans Athlé Max, le club des 5. Je vais te les citer, mais pas pour te donner d'ordre particulier. Hein. C'est les quatre qui sont vraiment des très bons copains et avec lesquels on échange de tous les sujets divers et variés, sportifs et extra-sportifs. C'est Florian Carvalho, Johan Durand, Benjamin Malati et Jeff Plastenet. Et du coup, chacun a son histoire, chacun a eu une expérience. D'ailleurs, on a tous été sportifs de haut niveau où on l'est encore aujourd'hui. On a eu tous nos moments de galère où on en a encore aujourd'hui. Et on est tous là pour se soutenir, s'écrire et voilà, dans tous les moments de vie. Et on était au mariage les uns des autres quand on a pu être présents. Enfin, c'est une très, très belle histoire et c'est de très belles personnes. Et voilà, un Jeff Lastenay, là, qui est kiné et qui vient de perdre 13 au marathon. Un Benjamin Malati, qui j'allume peut-être la mèche avant d'annoncer les choses, mais qui a arrêté pendant 2-3 ans, qui va peut-être revenir. Johan Durand, qui s'est blessé, qui revient, qui fait un gros chrono, qui se reblesse un petit peu et qui, là, repart de plus belle pour Paris 2024, on l'espère. Et Florian Carvalho, voilà, qui est comme moi, père de deux enfants et qui a la carrière, j'ai envie de dire, similaire à la mienne. On avait quasiment les mêmes records du 1500, 3000, 10 000. On est à quelque chose près dans les mêmes longueurs d'onde et qui passe pas sur marathon pour le moment alors qu'il avait vraiment les capacités. J'ai vu que je m'identifie énormément à lui. Donc voilà un peu tous ces gars-là qui font qu'ils sont intéressants et qui auront, je pense, une très belle histoire à te communiquer et à échanger avec toi.
Bah écoute, j'avais oui dire sur ce petit club de potes. Je sais pas comment vous êtes rencontrés, mais vous avez l'air d'être un peu comme les 5 doigts de la main.
C'est ça.
Après les Dalton, on a le club des 5 de l'athlète français. Bah écoute, ça serait avec grand plaisir de les découvrir et d'aller leur peut-être soutirer quelques informations sur toi ou un petit scoop, je ne sais pas. En tout cas, merci infiniment pour ce moment hyper riche, hyper dense. J'ai découvert plein de trucs sur toi et je sais que c'était pas facile de te faire dire des nouvelles choses parce que tu créais pas mal de contenu et t'as vraiment accéléré là-dessus et t'es très visible. Donc c'est un plaisir de préparer l'interview et je t'encourage à 1000% pour cette création de contenu à la développer encore plus. Et puis écoute, je touche du bois pour les futurs perfs, mais je me fais pas une seule seconde de soucis. Je suis sûr que ça va finir par le faire et dans tous les cas, tu garderas la banane quoi qu'il arrive, quoi.
Merci à toi, en tout cas. C'est un vrai plaisir, vraiment.
Eh ben, écoute, salut Yoko pour les intimes et je te dis à très bientôt.
À très vite. Ciao, soupape.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.